Notre raison d'être, c'est de rendre le travail plus épanouissant. Ça, c'est probablement l'objectif le plus difficile. Il faut créer chez chacun un leadership et une responsabilisation qui le rend entrepreneur de sa propre carrière dans un collectif qu'il ne contrôle pas. Tu peux lever autant que tu veux, mais il ne faut pas cramer ni le cash, ni les hommes.
Alors Caroline, j'aimerais creuser parce que c'est un sujet dont j'ai entendu parler de par plein d'amis qui me fascine autant qu'il me fait peur. J'ai pas encore lu le bouquin Reinventing Organization qui est sur ma table de chevet dans mes prochaines lectures. Moi, mon truc, c'est de creuser dans les détails. Donc, je vais te poser plein de questions parce que souvent, tu as la théorie, tu comprends, tu dis c'est génial. Après, tu essayes de l'implémenter et tu as tous les détails qui changent tout en fait. Donc, c'est quoi Reinventing Organization?
Reinventing Organization, c'est un livre. C'est un livre de Frédéric Laloux qui parle de ce qu'on a coutume d'appeler les entreprises libérées. Entreprises libérées, c'est un terme de Isaac Getz, ouais, qui est aussi un spécialiste du sujet en France. Donc, on a deux spécialistes en France. Et on a des spécialistes aux États-Unis qui parlent plutôt généralement d'holacratie, si j'ai bien compris, mais ouais, je suis moins sur le marché américain. De quoi on parle? On parle essentiellement, dans tous ces cas, de donner un maximum de confiance, de liberté et de responsabilité à toutes les personnes de l'entreprise. Et donc, on a coutume d'avoir beaucoup de responsabilités du côté du leader, mais là, il s'agit d'en donner à tout le monde, quelle que soit sa fonction, etc. Et pour ça, il faut créer chez chacun un leadership et une responsabilisation qui le rend, alors ma façon de le dire, c'est entrepreneur de sa propre carrière dans un collectif, et toute la difficulté, justement, entrepreneur dans un collectif qu'il ne contrôle pas. Donc, accepter ce lâcher prise et s'intégrer là-dedans tout en ayant un maximum de responsabilités. Le principe que donne Frédéric Laloux, parce que en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été interviewé une série d'entreprises qui fonctionnent comme ça. Et le principe qu'il recense et qui fonctionne très bien et que nous appliquons, c'est tu veux prendre une décision, tu consultes, puis tu agis en liberté. Les deux étapes sont clés, c'est-à-dire que tu dois d'abord consulter et te renseigner pour savoir quelles sont les bonnes personnes à consulter. Ensuite, consulter ces bonnes personnes, puis prendre ta décision. Et si tu prends la décision, ce n'est pas de la démocratie et ce n'est pas non plus de l'unanimité. C'est-à-dire que si les gens que tu consultes disent A, et que néanmoins, après avoir eu éclairage, tu décides de faire B, le groupe viendra regarder ce que tu as foutu, mais tu es seul responsable et tu as la liberté de le faire. Donc, on n'a jamais interdit quelqu'un de prendre une décision après consultation.
J'aimerais creuser un aspect qui est lié à ça. On parle beaucoup d'entreprises, alors je ne sais pas si on le dit comme ça en français, ce que je lis en anglais, mais entreprise plate, je ne sais pas si ça se dit comme ouais, ça. Ça marche comment en fait? C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a un peu cette ancienne règle, je crois que c'est Amazon qui dit qu'une équipe ne doit pas faire plus que la taille de 2 pizzas, quelque chose comme ça. C'est l'idée que tu ne dois pas être plus de 8 et tu dois avoir un manager et maximum 6 ou 7 personnes, selon Jeff Bezos peut-être. Je ne sais pas si ça a évolué. Ça ressemble à quoi, du coup, une entreprise plate?
C'est ce que je te disais. Moi, j'ai deux formats. Parce que comme c'est libéré, les gens font ce qu'ils veulent. Donc moi, j'ai des équipes où ils ont décidé qu'ils préféraient avoir du management. On est à peu près sur les mêmes ratios. Sauf que, à la différence que quand un manager chez nous a 3-8 personnes, il est supposé lui transmettre du savoir, il est supposé l'accompagner dans ses décisions, l'aider à discerner, il est supposé l'aider quand il est en galère. Mais tout ce qui peut être pris comme décision en dessous est pris en dessous. C'est un système, à un moment donné, on était très mal avec le mot management parce que ça ressemblait pas à du management, ça ressemblait à de l'accompagnement. Et ça,
c'est un coach en fait.
C'est un genre de coach. C'est ça l'idée. Et néanmoins, ce que tu vois, c'est que selon les équipes, selon les tempéraments, les gens vont être beaucoup plus dans une posture basse. Je suis ton coach, je t'aide à discerner, mais je ne viens pas prendre les décisions à ta place. Et il y a des gens qui ont besoin de plus de cadre, qui demandent à être plus « Ouais, mais moi, j'ai besoin que tu me dises quelle est ta vision, quelle est ta strat. » Je vais te le dire, mais en fait, la décision, elle t'appartient. Et puis parfois, ils vont dire « Non, mais moi, j'ai besoin que tu me le dises et qu'on arrête d'en discuter, quoi. » Et c'est OK. Et après, j'ai une équipe qui est complètement flat. Et effectivement, là, pour l'instant, il n'y a que 10 personnes. Mais en fait, comme ce sont 10 personnes qui sont très autonomes et en même temps avec une histoire managériale, on a été obligé de mettre en place des systèmes de co-management. Donc, ça veut dire que les gens sont par binôme et à peu près de même niveau. Enfin, et ils vont se co-manager. C'est-à-dire que l'un est responsable de vérifier que l'autre est sur la bonne trajectoire, de le challenger, de lui indiquer s'il pense que ça part en sucette. Et le principe, c'est pas d'hiérarchie, du co-management. La personne qui lead ce projet et cette équipe, qui s'appelle Violette, est une fille absolument formidable qui a énormément de courage de lancer ça. Parce que déjà, même à 10, elle a mis en place énormément de process justement pour mettre une organisation plate. C'est-à-dire qu'il y a le co-management, mais il y a aussi des décisions partagées. Il y a des gens qui sont multitâches. Il y a des gens qui vont avoir différents types d'objectifs sur le même poste parce qu'en fait, ils ont eu envie de faire à la fois tel job et tel job et que tout ça est libre. Et donc, tu as le droit de faire absolument ce que tu veux dans ton job. Donc, il a fallu mettre en place des process dans tous les sens. Elle a énormément de courage parce que ce qui est difficile, c'est que c'est une telle promesse qu'il y a une espèce d'attente très élevée de la part des collaborateurs qui vivent ça. Et c'est très difficile d'atteindre ces attentes dans la vraie vie avec les vrais challenges d'une boîte. T'as tous les jours un maximum de défis à relever et que donc cette promesse-là ne vient pas mettre du sucre partout, quoi.
J'aimerais qu'on creuse un aspect qui est lié à ça en ce moment, mon sujet de... Un des sujets de passion, là, c'est tout ce qui est culture de performance et d'exécution au sein d'une entreprise. Finalement, je retrouve ma passion du coaching, mais version entreprise. Typiquement, il y a plein d'outils comme un des plus connus, c'est OKR. Comment ça fonctionne chez toi, la notion d'objectif ?
Alors, en fait, moi, d'abord, je donne une direction de ce que je pense être les trois grands objectifs de l'année.
OK.
Je leur demande, après avoir un peu consulté, etc.
Par exemple, cette année, c'est quoi?
Cette année, c'est on a un objectif de valeur perçue et créée chez nos clients. À quel point ils considèrent que, effectivement, ça a vachement de valeur ce qu'on fait. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à payer cher pour ça? Est-ce qu'ils vont venir racheter? Donc, ça, c'est un premier objectif. Il y a un deuxième objectif qui est le faire savoir. C'est-à-dire que si, normalement, on fait du bon boulot, on doit pouvoir le faire savoir et donc il y a un objectif de notoriété. Et puis le troisième objectif, c'est que nos équipes soient le plus épanouies possible dans leur travail. C'est notre raison d'être par ailleurs. Je n'ai pas assez parlé de la raison d'être, mais il faudrait y revenir. Si tu veux parler d'entreprise libérée, ça ne se fait pas sans raison d'être. Notre raison d'être, c'est de rendre le travail plus épanouissant. Et donc, notre troisième objectif, il tourne autour de ça. Ça, c'est probablement l'objectif le plus difficile. Donc moi, j'ai pondu ces trois objectifs. En tout cas, j'ai pondu une V0 de ce truc-là, qui est un peu différente. Puis après, j'ai demandé à tout le monde dans la boîte d'aller travailler, ok, ça se décline comment chez eux?
Pour vous, ouais.
Sur l'année et sur la première période de 4 mois. Donc, chaque équipe a travaillé en transverse. Ils ont fait des ateliers de travail. On a énormément de méthodos pour faire accoucher des décisions en collectif. Ça ne marche pas, ce mode de fonctionnement, si tu ne sais
si
pas
tu dis
cadrer.
Juste, allez, vous êtes libre, tout le monde, faites ce que vous voulez.
Non. C'est hyper cadré. D'ailleurs, les Américains ont une version encore beaucoup plus processée que ce que nous, on tente. Mais c'est un système très, très processé. Nous, notre modèle, c'est donc ça redescend. Chaque équipe fait une proposition de ce que ça donne en KR chez eux. Et ensuite, avec un comité de coordination, en gros, on va essayer d'avoir quelque chose qui soit homogène, coordonné, entre toutes ces propositions à droite à gauche, priorisé peut-être, de dire, super, vous voulez mettre l'accent là-dessus, de l'autre côté, ils veulent mettre l'accent là-dessus, on ne fera pas les deux, donc qu'est-ce qu'on choisit de faire? Et donc, à l'échelle de la boîte, il faut parfois faire des choix et arbitrer. Ça, c'est plutôt de ma responsabilité. Mais pareil, j'essaie de consulter pour savoir à quel point... On peut renoncer à l'un ou à l'autre, quoi. Pour les OKR, c'est partout pareil de ce point de vue-là. T'es obligé de faire un système de montée-descente, donc ça change pas tant que ça.
Et la notion de challenger l'objectif, imaginons qu'il y a une personne qui se donne un objectif, mais que son manager, s'il y en a un, il se dit, non mais c'est... Là-bas, typiquement dans le bouquin qui est assez connu, je crois qu'il s'appelle Measure What Matters,
ouais.
À un moment donné, t'as un des fondateurs de Google, il dit à la nana qui gère YouTube, il dit, non mais je pense qu'on peut vraiment atteindre 1 milliard d'heures consommées à la journée, bref, un truc assez délirant. Et il la challenge là-dessus. Est-ce que du coup, dans une entreprise libérée, le manager, il peut se permettre de challenger l'objectif en disant, moi je pense que c'est trop bas en fait?
Mais de toute façon, on challenge. Enfin, je veux dire, on est libéré, mais on est super ambitieux. Donc, dans l'ensemble, et moi, je compte beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'une fois que tu responsabilises les gens, tu leur demandes aussi ce qui les nourrirait. Moi, je crois fondamentalement, et je crois toi aussi, que tout le monde a envie, finalement, de réussir des challenges et de se sentir nourri par ça, quoi. On part du principe que les gens ne vont pas taper bas par flemme. Pas s'ils peuvent se réaliser dans ce qu'ils font. S'ils ont renoncé à se réaliser dans ce qu'ils font, oui. Là, ils vont se dire, de toute façon... J'aurais pas de succès ici, donc autant pas mettre mon énergie ici, je vais la mettre ailleurs et donc là, je vais taper un objectif bas. Nous, on essaye de faire en sorte qu'ils se réalisent dans leur travail. On leur dit, tu seras vraiment fier de toi à la fin de l'année si tu as fait ça? Je veux dire, à la fin de l'année, tu te dis, waouh, ça c'est moi. Si tu as fait ça, Et souvent, moi, j'ai vraiment pas ce problème-là. C'est assez rare. On a parfois, suite à une année difficile, des gens qui se disent, voilà, non, en vrai, là, il faut repartir plus raisonnable parce qu'être toujours derrière ses objectifs, c'est pas bon. Et quand ils partent un peu trop raisonnables, on leur dit, est-ce que tu penses que, OK, j'ai compris que par cette pente-là, c'était dur et l'année dernière, ça a été dur. Est-ce qu'il y a un autre chemin pour faire quelque chose qui quand même te nourrisse et te rende fier de toi, quoi.
Et chez vous, la culture, c'est quoi? Par exemple, chez Google, apparemment, ils sont dans un objectif qui stretch suffisamment pour que 70% de l'atteindre, c'est déjà énorme. Et les 30% restants, c'est aller sur la Lune, quoi. C'est quoi, toi, ta vision?
Ah là là, c'est un sujet sur lequel on a pas mal tourné. Aujourd'hui, on a un prévisionnel, on est une entreprise rentable. Donc, dans le monde des startups, on est peu à raisonner plutôt comme ça, mais on a un prévisionnel qui est extrêmement sharp. C'est vital pour nous de savoir si le cash va être là, combien on va faire. Et donc, on pilote ça vraiment, c'est de la dentelle.
Est-ce que vous avez de la croissance sur vos revenus?
Ouais, exactement. On finance toute notre croissance nous-mêmes. Et c'est un truc auquel je tiens, parce que je trouve que... Je dis pas que tous les business peuvent se faire comme ça, mais quand ils peuvent se faire comme ça, je trouve que c'est très sain. Mais donc, on a un prévisionnel qui est extrêmement, extrêmement carré. D'ailleurs, à une époque, on avait un DAF partagé. Quand on a commencé à avoir un DAF partagé, il nous a dit, oh là, mais en fait, je n'ai que deux entreprises qui ont des BP comme les vôtres, aussi sharp, et encore, vous êtes au niveau d'après. Et ce sont mes deux seules entreprises rentables, et vous êtes la plus rentable. Et en fait, je crois que ça va avec. C'est en fait, si tu peux pas piloter très, très finement, ça marche pas. Donc, on a notre prévisionnel qui est toujours à 100, quoi. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de tomber juste, ni au-dessus, ni en dessous. On veut tomber juste. En revanche, les objectifs qu'on donne aux équipes, les objectifs commerciaux, on les donne toujours un peu au-dessus. Ils le savent. Et ça, on fait ça depuis pas très longtemps. Et le résultat, c'est que ça fait 5 mois qu'on est au-dessus de notre prévisionnel. Et ça, c'était vraiment inattendu parce que notre prévisionnel, d'habitude, il est vraiment au cordeau. On a essayé d'être plus réaliste cette année. On a vraiment repris toutes les métriques de l'historique pour se dire vraiment, on ne fait aucune hypothèse de oui, mais cette année, on aura, je ne sais pas quoi, le vent dans le dos et ça va mieux fonctionner. Donc, le prévisionnel, si on regarde l'historique, c'est ça qui doit se passer. Et par contre, on vient raconter aux commerciaux et aux différentes équipes que ce qui nous ferait vraiment plaisir, c'est d'être au-dessus. On tient comme ça. Du coup, ça ne marche pas parce que mon prévisionnel, on n'est pas exactement dans les clous, mais c'est pas grave, on va s'arranger. Et s'il faut revoir le prévisionnel à la hausse, ce serait plutôt un plaisir.
Et en termes de modèle de rémunération, est-ce que les équipes, elles ont un intéressement à la performance de la boîte? Parce que
ouais.
J'entends tous les types de modèles de rémunération. C'est un sujet qui, pour moi, est complexe, à savoir quoi choisir pour soi. Parce que j'ai l'impression que c'est plus ça la question. C'est quoi, du coup, pour vous, qui marche?
Ce qui a longtemps marché, c'est pas de variable et de l'intéressement en fin d'année.
OK. Donc des actions?
Non, on est rentable, donc de l'intéressement d'intéressement. C'est-à-dire, à la fin, il y a du bénéfice et puis on le répartit sur les tuyaux. Ouais. C'est pas forcément toujours très courant dans notre univers. On a un peu changé de culture là-dessus avec l'année Covid. Je crois que les commerciaux ont eu très envie de tester un modèle de variable.
Ah, même les commerciaux n'étaient pas en variable?
Ouais.
Wow.
On a fait un premier test pendant le Covid qui a été intéressant, mais court pour être concluant. Et donc là, on va redémarrer avec du variable sur les commerciaux. Et voilà, on essaye autre chose, quoi.
Et donc, du coup, l'intéressement, il était défini en amont en disant, tiens, si on atteint telle chose, voilà ce que tu peux avoir en termes de bonus?
Ouais. C'est... L'intéressement, c'est une formule que tu dois déposer pour 3 ans. Tu dois déposer officiellement ta formule et elle ne pourra pas changer pendant 3 ans, sauf à faire un abonnement avec tous tes salariés, tu vois. Donc, pour 3 ans, ta formule, elle est calée. C'est un peu un problème dans les entreprises en très forte croissance comme nous, parce que tu définis une formule par rapport à des métriques que tu crois être bonnes à un instant T, puis 3 ans après, le truc, il a un peu changé.
Ça ressemble à quoi, une formule? C'est basé
sur... bénéfice net fois X% que tu vois, tu vas peut-être t'en garder un peu pour la croissance.
Ouais.
Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on garde un résultat net minimum pour la croissance et le surplus... on le verse.
C'est réparti de manière égale? Comment on
Alors, tu as le choix, tu peux le faire à la tête ou tu peux le faire en fonction du salaire.
Donc, c'est une proportion du salaire.
Ouais, tu peux dire, en fait, tu as une enveloppe, du coup, tu dis, mon bénéfice net au-delà de ton résultat net que tu as gardé de côté, eh bien, celui-là, il sera entièrement réparti à due proportion des salaires des gens ou pareil pour tout le monde.
Et toi, tu conseilles quoi?
Nous, on a pris à due proportion du salaire des gens parce qu'on s'est dit que ça reflète aussi la loyauté dans le temps, ça reflète aussi l'effort, la prise de responsabilité. Même si je te disais, tout le monde est responsable, mais en réalité, sur tes épaules, t'as parfois un peu plus quand tu as une équipe de 15 personnes. Parce que moi, je crois que les vraies grosses responsabilités, elles passent par les gens. Tu vois, donc quand tu as beaucoup de gens qui comptent sur toi, ben c'est plus lourd que quand t'en as une ou pas, quoi.
C'est clair. J'ai envie de te laisser raconter, parce que je sens que c'est important. Tout à l'heure, t'en parlais. C'est quoi la raison d'être, ta raison d'être, en fait, de ce qui t'anime? Ce qui s'est passé, c'est que vu que j'ai entendu plein de podcasts, je sais plein de choses de toi que ceux qui nous écoutent n'ont pas forcément entendu. Mais raconte-moi, qu'est-ce qui t'anime au quotidien depuis longtemps? Pourquoi tu t'intéresses à ce bien-être des gens, de toi, tes équipes? Ça m'intéresse d'en savoir plus.
Ce qui est important pour moi, c'est les gens. C'est sûr. J'ai démarré ce projet. Au départ, j'ai même pensé devenir entrepreneur simplement parce que j'avais envie d'avoir une équipe qui est bien au taf, quoi, qui est heureuse d'être là, avec qui ça se passe bien. Voilà, j'ai toujours bien aimé créer des collectifs. Et donc, quelque part, au bout d'un moment, dans ma vie professionnelle, je me suis dit, je vais créer un collectif au boulot, quoi. Ça va être plus marrant. C'est devenu le projet que c'est devenu un peu par cette voie-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai croisé la route de quelqu'un qui m'a parlé d'un problème de recrutement dans le monde entrepreneurial et de la difficulté à trouver des gens qui avaient envie de se lancer dans ce genre de job, alors que moi, je me disais, mais moi, j'en rêverais, quoi, de ce truc-là. Et donc, j'ai atterri là. Mais au fond, la raison pour laquelle j'ai lancé ce business, c'est vraiment avoir des gens qui sont heureux de bosser. Et en fait, je suis partie de ce truc-là et j'en ai fait permettre à tous mes clients et à tous les candidats et à tous les gens qu'on accompagne de s'épanouir là dans leur taf, déjà en étant au bon endroit, le bon métier, pour la bonne personne, ça aide, dans la bonne équipe, avec la bonne culture. Déjà, c'est une bonne façon d'être mieux dans son boulot. Et puis après, en accompagnant tout ça, quoi, en ayant des coachs, en formant les managers pour que les managers soient plus à l'aise, mais en formant les managers aussi, parce que c'est hyper dur de manager, et que donc, y avoir, encore une fois, avoir la responsabilité des gens, c'est lourd, c'est ambitieux. Et puis, je pense que c'est une énorme responsabilité. Donc, les aider dans ce truc-là, c'est aussi le meilleur moyen de se sentir fier de soi quand tu as une équipe de 2, 5, 50 personnes qui te disent que vraiment, grâce à toi, ils se sentent bien et ça nourrit leur vie perso. Leur vie pro nourrit leur vie perso. Ben, c'est quand même pas la même fierté que de se dire « Attends, j'ai fait exactement l'objectif de ce que le papier disait. » Tu vois, moi, qui ai fait passer beaucoup d'entretiens, quand j'entends les vraies fiertés de mes candidats, elles passent toujours par l'humain. Et donc, je crois à ça.
Tu fais encore des entretiens?
Plus beaucoup. Mais ça m'arrive, oui, bien sûr. Déjà, je fais les entretiens de fin de cursus de recrutement pour chez nous. Et puis, ça m'arrive d'accompagner des coachs quand il y a besoin, quoi. Mais je fais les entretiens pour chez nous, ça, il y en a beaucoup encore.
Yes,
en ce moment, on recrute beaucoup.
Ça sera encore pour longtemps. J'aimerais creuser cet aspect bien-être parce qu'il y a plein d'écoles. Il y a tout l'univers start-up qui a mis des baby-foot, paniers de basket. Il y a plein de choses qui se sont créées de ce type-là. Netflix m'inspire par leur capacité à casser les codes et à faire ce qu'ils pensent qui est juste pour eux. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais en tout cas, cette idée de... Je crois qu'il a une phrase, voilà, pour nous, le bien-être des équipes, ce n'est pas un baby-foot, machin, c'est des projets passionnants, etc. Ça a l'air d'être vraiment important pour toi, le bien-être des équipes. Le bien-être, c'est une question qui est hyper compliquée. Est-ce qu'on parle de prendre du plaisir? Est-ce qu'on parle d'avoir du sens? Moi, derrière, il y a aussi une autre question qui est, est-ce que quand tu dis aux gens, je veux que vous soyez heureux, est-ce qu'il n'y a pas des fois un effet opposé qui se passe de... je m'attends à avoir que du plaisir et que ça soit toujours agréable, ce qui est pas possible en tant qu'être humain. Raconte-moi peut-être les choses que tu as testées, ce que tu as appris, ce qui marche le mieux et qui a généré du coup du bien-être dans tes équipes.
D'abord, tu vois, moi, je dis pas bien-être, je dis épanouissement, parce que c'est vrai que, tu vois, bien-être, c'est au spa. Et en fait, dans une vie, t'es pas tout le temps au spa, en fait, tu te ferais chier. Pour moi, s'épanouir, c'est aussi se dépasser. Tu vois, si je regarde la vie perso... Je veux dire, le nombre de gens qui font des marathons, se dépasser, ça fait partie de l'humain, quoi. Tu peux même le faire pour ton loisir. Quand personne ne te demande rien, tu vas faire 40 bornes qui vont te faire mal aux chevilles. Et donc, ça fait partie de la vie et de l'humain. On a besoin de ça. Et donc, tu as besoin d'un équilibre entre je me dépasse, je m'énergise et je ne m'épuise pas. Déjà, pour moi, c'est un équilibre des deux. Il faut absolument que les gens aient le minimum de déséquilibre de compétences pour aller toujours à la marge du dessus, sinon ils stagnent. Et la stagnation, c'est la dépression. Donc, enfin, vraiment, pour moi, c'est assez lié que dans la vie, mais sur le temps long, il faut avoir l'opportunité de progresser. Et après, il y a cette histoire de temps long. C'est-à-dire que tu ne peux pas être en permanence sur le temps long en train de t'épuiser. Donc, il faut avoir des temps où tu cravaches et des temps où tu profites de ce que tu as cravaché. Et ça, c'est le temps long. Et toute la difficulté dans nos univers, c'est de faire entendre le temps long aux équipes, parce que tout va très vite. En un an, il faut déjà avoir fait bouger ton périmètre de poste, une augmentation, faudrait déjà être chef ou entrepreneur ou je ne sais quoi. Alors, t'imagines, dans une entreprise libérée, on essaye d'éviter les trop de statuts et tout ça, c'est compliqué. Mon sujet, il est déjà de décomposer ce dont les gens ont besoin. Donc, on a besoin de se sentir progresser du point de vue du statut, de l'apprentissage. Tu as besoin d'un sentiment d'appartenance. Moi, je crois qu'il y a besoin de fun aussi. Donc, tu vois, quand j'ai refait la pyramide de Maslow pour chez nous, je décompose énormément de choses selon cette pyramide qui marche toujours très, très bien quand on a des sujets, genre les salaires, les augments, les machins.
Le fun, elle est où dans la pyramide, du coup?
Eh ben, moi, je l'ai placé en haut. Bon, tu pourrais le mettre où tu veux, mais comme il y a un côté à la toute fin de dépassement, d'épanouissement, etc., moi, je ne crois pas que ça se passe sans se marrer, tu vois. Peut-être les grands hommes ne se marraient pas beaucoup, mais je ne crois pas, en fait.
Et ça marche comment, du coup? Comment tu distilles du fun dans ta boîte? Ça prend
alors, on a des gens qui sont bénévoles pour ça, qui font... ouais, on a une team qui s'appelle Unir, parce que nos valeurs, on les retravaille souvent, elles tournent toujours autour de la même chose, mais leur formulation s'affine avec le temps. Et à un moment donné, il y avait une valeur qui s'appelait Unir, et qui est créer du lien entre les gens. Et d'ailleurs, moi, j'ai souvent longtemps cru que c'était très lié aux relations que tu peux avoir dans le travail. Je crois d'ailleurs encore beaucoup que c'est lié, c'est-à-dire le regard que les gens portent sur la qualité de ton travail, les relations que tu peux avoir avec tes collègues, est-ce que tu as des potes, est-ce que tu as des gens qui t'amusent, qui t'inspirent. Donc je crois beaucoup que ça passe par ça, même à l'extérieur, tu vois, dans ton écosystème, à quel point les gens que tu rencontres vont t'inspirer, te nourrir, etc. Donc je crois que ça passe beaucoup comme ça, l'homme est un animal social. Et donc on travaille là-dessus aussi, on regarde... Ok, mais du coup, est-ce que tu fais bien partie d'une équipe? Quel que soit ton rôle, est-ce que tu as suffisamment d'interactions qui te nourrissent, etc. Alors là, dans l'année Covid, c'était vraiment difficile, ces sujets-là. Tout le monde était en télétravail. On a beau avoir du lien, en fait, c'est pas le même lien, quoi. C'est pas le même lien. Et pourtant, encore une fois, on a beaucoup de méthodos pour venir apporter du lien, de la décision collaborative, etc.
Quand tu dis on a beaucoup de méthodos, elles viennent d'où?
Elles viennent de plusieurs sources. Mais peut-être j'ai envie d'en citer une qui nous a beaucoup inspirés et dans laquelle on a été... incroyablement accompagné, qui s'appelle Toscane, qui est un organisme qui réunit des dirigeants qui ont envie justement de libérer ou d'aplatir ou de ce que tu veux leur entreprise, mais en tout cas d'avoir des organisations qui sont vivantes, responsabilisantes, respectueuses des gens. Voilà. Ce sont des parcours d'un an, où, je crois 5 fois sur une année, on va être 3 jours avec d'autres dirigeants qui ne sont pas du tout que des gens de start-up. D'ailleurs, je pense qu'on faisait partie des premiers start-upers du programme. Ce sont des personnes formidables et c'est que du co-développement. Et donc, d'une part, on travaille en co-développement, tu vois, entre nous. Donc, tu rencontres des gens avec qui tu vas exposer tes problèmes de dirigeant. En fait, là, on essaye d'enlever les statuts de manager ou quoi. Sauf que je me heurte à telle personne que j'avais vachement envie de valoriser, je ne peux plus, etc. Et les autres font des retours et aident à avancer sur ce chemin. Et en même temps, on apprend toutes les méthodes qui permettent de faire ça et qu'on peut après utiliser dans son entreprise. Parce que ce sont que des méthodes qui permettent de prendre des décisions bien éclairées, en consultation et en liberté. En liberté, ça veut aussi dire en liberté de soi, du regard qu'on a sur soi. À quel point j'assume mes décisions, à quel point j'assume d'être la personne qui a fait ce modèle d'entreprise versus cet autre modèle. Est-ce que j'assume, tu vois? Et donc, se connaître soi, c'est aussi une bonne façon d'aller dans la bonne direction. Donc, on fait beaucoup de travail sur soi dans ces exercices et dans ces méthodos.
Non, ça a l'air passionnant. C'est clairement, je vais me renseigner là, après. Et en termes de bien-être, du coup, donc, tu parlais de la relation, tu parlais du fun. Tu vois des choses typiquement que des avant-après, des choses que vous avez testées, ça s'avérait bien marché pour toi? Que d'autres gens qui nous écoutent ou moi, je pourrais me dire, allez, je teste ça.
Il y a un truc qui me vient en tête, mais c'est peut-être lié à ce qu'on vient de se dire. Il y a une méthode qu'on a beaucoup, beaucoup réexploité chez nous et que je trouve assez formidable et qui est finalement assez facilement réexploitable. Alors, il faut oser la transparence et l'authenticité, mais c'est quand même assez facilement réexploitable. C'est une méthode qu'on appelle le 2-3-1. Le principe, c'est quand il y a un sujet difficile, une décision difficile à prendre, admettons que, je ne sais pas, tu dois pivoter. Tu faisais, je ne sais pas quoi, du B2C et tu dois aller sur du B2B. Une espèce de classique des entrepreneurs. Les gens que tu as embauchés, ils sont venus pour parler à une cible, tu vois. Donc, ça les change quand même radicalement. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on dit, ben voilà, moi, en tant que dirigeant, là, je me heurte à tel problème. Voilà les raisons pour lesquelles je me heurte à ce problème. Souvent, ben, du coup, on n'est pas rentable, le fonds d'investissement n'est pas d'accord. La seule solution que je vois aujourd'hui, c'est de passer sur du B2B. Maintenant, on va faire un 2-3 ensemble pour savoir ce que vous en pensez et ce qu'on peut faire pour le faire ou pour faire différemment. Le 2-3-1, c'est première étape, les gens qui sont autour de la table vont commencer par dire ce que ça leur fait qu'on fasse cette transition. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit 2? C'est parce que tu as 3 niveaux. Tu as le 1, c'est la tête, le 2, c'est le cœur, et le 3, c'est les tripes. En gros, la tête, c'est le rationnel, Les tripes, c'est qui tu es, tes valeurs, ce qui est vraiment important pour toi. Et le 2, c'est l'émotionnel et ça fait un peu le thermomètre entre les deux. C'est-à-dire que quand les deux sont pas d'accord, tu vois, souvent, ça fait de la colère ou de la tristesse. Enfin, bon, voilà. Et donc, on commence par leur dire, OK, c'est quoi les sensations? Tu vois, au niveau 2, c'est quoi les émotions que ça te fait quand t'entends ça? T'es furieux parce que tu te sens trahi ou t'es excité parce que tu te dis, enfin, on va faire du business, etc. Et déjà, d'entendre ce que ça fait aux gens, ça a un effet énorme. Ensuite, généralement, la discussion va aller toute seule sur le niveau 3. C'est-à-dire, ouais, mais tu comprends, en fait, quand je te dis ça, c'est parce que je réalise que moi, au fond. Donc, en fait, tu commences par dire, ouais, mais je suis en colère parce que on avait dit qu'on ferait ça, etc. Et en fait, je réalise, quand je vous le dis, et puis quand je vous écoute, que, en fait, ça vient heurter telle valeur chez moi, c'est vraiment pas possible pour moi. On partage tout ça. Du coup, on voit ce qu'il y a dans le collectif, enfin, qui sont les individus qui constituent ce collectif et à quoi on va se heurter. Et généralement, de soi-même, le collectif va aller ensuite sur une phase qui est le niveau tête, qui est, mais alors attends, du coup, maintenant, on a bien partagé, mais en fait, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est incroyable le point auquel, si tu suis, enfin, si t'accompagnes à peu près en disant, bah, attends, on fait d'abord le tour de tous les niveaux 2 de tout le monde, est-ce que tout le monde a bien pu parler? Est-ce qu'au niveau 3, on est bon? Après, tu dis, on n'oublie pas le niveau 1, donc qu'est-ce qu'on fait? La solution est très, très consensuelle. Généralement, on est vraiment très, très d'accord sur ce qui va être mis en place. Et peut-être ça va être le pivot vers le B2B, et ouais, bah, y a pas le choix, mais on peut peut-être ajuster ceci et cela. Et peut-être qu'on va... Et du coup, tu as réembarqué toute ton équipe. Peut-être que finalement, on ne va pas pivoter, qu'on va faire autrement, qu'on a trouvé un autre marché, que voilà.
Ça m'a inspiré. Non, vraiment, ça m'a inspiré. Tu vois, ça me met presque les larmes aux yeux. C'est vraiment très fort parce que du coup, effectivement, le risque si on ne fait pas ça, c'est qu'on soit en train de parler avec la tête, mais en réalité, pas vraiment. Et ça soit nos valeurs qui sont en train de batailler, nos peurs déguisées par du raisonnement intellectuel. Là, au moins, on a tout sorti et on peut raisonner de manière beaucoup plus percutante. Non, c'est un super outil.
Et j'adore. En plus, tu trouves témoin dans tes émotions. C'est-à-dire que la personne en face, quand tu as peur de quelque chose et que tu as un lieu pour le dire, et que tu peux dire, en fait, moi, j'ai peur que cette boîte, elle se croûte parce que le B2B, j'y crois pas. Et du coup, j'ai pas du tout envie parce que moi, je vous adore, les gars, je veux pas bosser avec quelqu'un d'autre et tout. Les autres, ils peuvent entendre et trouver témoin de ça. Déjà, c'est très, très apaisant pour soi. Ensuite, pour les autres, ce qu'ils ont compris, ce qui était important de maintenir, c'était le collectif. Du coup, tu as plein d'autres manières d'y arriver que de pas faire l'option que tu avais choisie. Et du coup, tu as une espèce de truc qui se passe où voilà, les gens se sentent entendus.
Bah, j'en suis convaincu. Non, vraiment, je trouve ça super. C'est facile en soi à modéliser, enfin à utiliser. Ouais. Et j'imagine que ça résout beaucoup plus facilement. Parce que l'humain, on a tellement du mal des fois à dire les vraies choses qui nous concernent. Et du coup, t'as une fausse conversation. Donc,
On en a plein des outils comme ça. Parce que c'est vrai que tu me demandais, ça ressemble à quoi en fait, une entreprise libérée ou une entreprise opale? En fait, je saurais pas très bien te dire, d'autant qu'on a des managers d'un côté, c'est vrai, de l'autre, on n'en a pas. Mais alors en vrai, qu'est-ce qui est différent? On fait des OKR. Alors oui, on a des congés... très libre, on a des évaluations salariales qui sont faites par un collectif, mais en réalité, tout ça, tu peux l'avoir dans d'autres modèles, mais je crois que ce qui est le plus présent chez nous, c'est que c'est l'humain d'abord. C'est d'abord comment tu te sens et du coup, comment le collectif se sent et comment le collectif va réorienter la boîte. Et en fait, c'est un mouvement où c'est pas des individus qui décident de l'avenir de la boîte, c'est un collectif. C'est ça qui est chouette. Mais il faut des outils.
Une question qui inspire souvent beaucoup de mon audience, c'est qu'on voit souvent dans la télé, les médias, juste les réussites. Souvent, on compare son monde intérieur avec le monde extérieur, avec l'extérieur des autres. On pense qu'on est les seuls à avoir du stress, des inquiétudes, des challenges. Moi, j'essaie de partager un peu mes challenges pour que mon audience, elle se rende compte que, ben, on est pareil en soi. C'est quoi un des moments dans ton parcours entrepreneurial qui a été le plus challengeant, le plus dur? Qu'est-ce que tu en as appris? Comment tu l'as transformé?
Le moment le plus challengeant, je crois, aujourd'hui, après il y en aura probablement des plus durs, c'est que dans ma croyance, puisqu'on travaille aussi beaucoup sur les croyances de chacun, il y en a qui sont limitantes, il y en a qui sont énergisantes et dynamisantes. Dans mes croyances, je te l'ai déjà dit, il y a le fait que pour que les gens soient épanouis, ça passe d'abord par l'humain et donc par les relations qu'on met en place. Pendant longtemps, j'ai poussé ça à un point où je me suis dit, en fait, il ne faut pas se voiler la face. En réalité, il y a des gens qu'on aime dans son travail, il y a des gens... qu'on aime peut-être moins, il y a des affinités, il y a des choses qui se passent. Et j'ai pas du tout envie d'aseptiser ça. Je crois que t'auras compris que chez nous, on n'aseptise pas grand-chose. Donc, on a souvent des conversations très, très, tu vois, très intenses, très intimes. On essaye de garder de la pudeur, mais peut-être j'ai pas assez fait ça à un moment donné. J'ai développé, en particulier au début, et c'est vrai dans beaucoup de petites boîtes, des vraies amitiés avec beaucoup de gens. J'ai changé vis-à-vis de ça, mais... je ne sais pas très bien comment le transformer. J'ai développé des amitiés tellement fortes qu'à un moment donné, quand ça a plus été d'un point de vue professionnel, ça a été vraiment très dur. J'avais l'impression que prévenir qu'on est potes, mais si un jour, sur le plan du business, en fait, il y a un truc qui ne va pas, je te le dirai, ce que j'ai fait, ce qui ne s'est pas bien passé du tout. Et dans l'affaire, j'ai perdu deux très bons amis. Et ça, ça a été vraiment dur. Et en même temps, je suis très heureuse de les avoir rencontrés. Je ne les verrai probablement plus. Ben, c'était ça l'aventure, quoi. C'était peut-être...
Et t'en as appris quoi, du coup, de ça ?
J'en ai appris que je ne peux pas maîtriser la manière dont la personne en face va séparer le pro et le perso. Je peux travailler sur moi, je peux accepter des déceptions. C'était dans le deal qu'en fait, peut-être, dans ces amitiés-là, j'en perdrais. Et en fait, j'ai été très triste de voir que c'était très douloureux en face et qu'à la limite, le fait que moi, je l'accepte et pas eux, renvoyait aussi une image de « mais elle est trop dure ». Et au fond, pour moi, c'est la vie qui passe, quoi. C'est parfois, dans la vie, on est très, très proche et on est très intime et c'est chouette. Et puis parfois, la vie nous sépare et c'est comme ça. Et quand j'ai vu à quel point ça leur avait fait du mal, en fait, je crois que c'est ça. Ce qui a été très dur pour moi, c'est le point auquel, eux, ça leur a fait du mal. Alors que je pensais que c'est le boulot, c'est OK. Et en fait, non, quoi.
Ce que tu décris, c'est un gros dilemme, d'autant plus si tu crées un état d'esprit, une culture relativement familiale. Du coup, ça ouais. rend le truc plus dur. Dans le bouquin, justement, sur un des bouquins sur Netflix, moi, ça m'a fait réfléchir. J'ai pas fini de tirer ma propre conclusion, mais en tout cas, il raconte. Donc, il crée Netflix, il va chercher son ancienne RH, Patty quelque chose, qui était hyper importante pour lui. Elle a joué un rôle majeur dans le développement de Netflix. Et à un moment donné, donc Netflix, je ne sais plus quelle taille ils sont, mais ils sont déjà internationaux, c'est énorme. Et il l'appelle et il lui dit « Écoute, Patty, en fait, je pense que tu n'es plus adapté pour la suite de l'aventure. Tu étais super pour qu'on aille, genre, je dis n'importe quoi, jusqu'au milliard, mais tu n'es plus la bonne personne maintenant. » C'est dur, en fait, comme moment. Et je voyais en moi les deux dimensions, à la fois d'un côté, la dimension de bah, « il y a une vision, il y a une boîte, ils ont un projet, ils ont un rêve. » Ça a toujours été clair pour elle. Pour le coup, elle a compris sa décision, mais elle raconte quand même que sur le moment, elle a dégluti, quoi. Elle
s'imaginait. Ah non, mais c'est hyper dur. Et moi, je n'avais pas réalisé que ce serait aussi dur. Parce que moi aussi, j'ai cherché mille façons de ne pas en arriver là. Donc, j'ai cherché mille façons de comment on va contourner le problème. Peut-être que ce n'est pas la bonne personne pour ça, mais peut-être qu'on peut trouver une autre façon de faire, un autre job, une autre. Et tout. Et en fait, il y a un moment où. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et donc, il faut voir le truc en face. Et ça, c'est pas bien passé. Après, tu me disais, qu'est-ce que j'en retiens ? J'en retiens aussi qu'en fait, malgré l'étape difficile, j'ai pas du tout arrêté d'avoir des potes dans le boulot. J'ai embauché ensuite deux copines très proches de ma vie d'avant. Donc, tu vois, j'ai rendu... J'ai pris le risque limite plus supérieur. C'est-à-dire que ce que je m'étais interdit jusqu'à présent, je m'étais dit, en fait, c'est bien de devenir pote avec ses collègues. Mais en fait, le deal, il est clair. Quoi. Quand tu les as embauchés, c'était pour faire X. À la limite, on s'est connus d'abord pour le boulot. Là, c'est des copines avec qui j'ai une vie d'avant. Mais je crois aussi que, d'abord, cette histoire que je te raconte et cet échec que je te raconte m'a nourrie. Et donc, je crois que j'ai appris des choses et j'espère que j'ai appris des choses. Et la deuxième chose, c'est que je me suis beaucoup équipée. D'abord, avec une, j'ai pris un coach qui était là, destiné à faire en sorte que notre relation se passe bien. J'ai fait la même chose avec mon associé. Et je décline la même chose avec ma deuxième copine, le même framework de réflexion. En début de collaboration, on fait tout un questionnaire où on se dit pourquoi dans la vie privée on s'apprécie, quelle est notre relation. En plus, c'est un moment magnifique entre amis de se dire tout ça et de se dire aussi, mais alors du coup, qu'est-ce qui ferait que ça merde sur le plan pro ? Et puis, qu'est-ce qui se passerait si soudainement, toi ou moi, on n'était plus au niveau et qu'il y avait de la déception professionnelle d'un côté ou de l'autre, qu'est-ce que ça engendrerait et du coup, comment on réagirait ? Par exemple, j'ai une de mes amies, quand on a fait ce truc-là, elle m'a dit « Moi, il faut savoir, pendant 6 mois, je ne veux plus te parler. Je me connais, c'est comme ça. Je ne vais plus pouvoir te parler, quel que soit le truc. En fait, je sais que j'aurais besoin de prendre un peu d'air. Et puis après, par contre, je ne suis pas du tout rancunière. Donc, ce sera OK, je reviendrai. » Et on s'est tous dit, dans cette histoire, on bosse ensemble alors qu'on avait une amitié avant. Donc, c'est l'amitié d'abord. Et du coup, on acceptera que le job se passe pas bien et qu'on ait besoin de se séparer un peu plus tôt que prévu si notre amitié devait en pâtir. Ça, c'est ce qu'on a fait pour les persos. Pour les pros, c'est différent. C'est notre
métier. Et tu arrives, parce que moi, j'ai vécu, je le vis encore, d'avoir des personnes dans... Donc là, c'est encore différent, mais dans ma boîte, qui sont de la famille. Je vois que c'est complexe pour moi dès lors que c'est du feedback négatif, entre guillemets, parce que Il y a deux dimensions. Je vais être tiraillé avec deux parties de moi. Comment tu gères cet aspect? Parce que je trouve que quand tout va bien, c'est facile en fait.
Ouais.
Ça change pas, c'est même encore mieux. Mais dès qu'il s'agit de peut-être challenger la personne ou lui faire un feedback, comment ça se passe? Alors peut-être que la partie entreprise libérée facilite, je sais pas.
Non, t'inquiète, c'est difficile. Non, alors moi, j'ai pas été jusqu'à bosser en famille. Le principe, il est le même, c'est-à-dire qu'on utilise, alors dans tous les cas, on utilise beaucoup de communication non violente. Donc on fait nos feedbacks et on a monté beaucoup de nos méthodologies autour de ça. On fait du feedback en communication non violente pour qu'il soit entendable, qu'il soit audible, mais surtout qu'il soit constructif. C'est-à-dire qu'on s'en fout de dire c'était nul.
Ouais.
La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble de ce truc-là, quoi.
Et tu as implémenté des choses dans la boîte pour encourager cette culture
du feedback ? Ils sont tous formés communication non violente au fil de l'eau. Il y a de la formation propre à certains moments de ton onboarding, et puis après, quand on devient manager, etc. Nous, on a monté une formation pour les managers qui utilisent beaucoup ces méthodes-là. Donc, on étudie le feedback, etc. Parce que ça fait partie des facteurs clés de succès du management que d'être capable de dire les choses de telle façon qu'elles construisent quelque chose et pas qu'elles détruisent quelque chose. Tu vois, donc ça, c'est le principe de base. Et donc, en famille, a fortiori, t'as vachement envie que quand tu dis quelque chose, ça construise quelque chose plutôt que ça détruise quelque chose. Je dis pas que c'est la voie magique. Je dis que ce sont des bons outils.
Ouais.
Et je dis qu'après, c'est difficile. Moi, les personnes avec qui la relation s'est terminée, pourtant, j'ai utilisé ma communication non violente à gogo, tout ce que j'ai pu. Et j'ai fait des bêtises aussi. Parce que même s'il y a communication non violente, notamment, il y a des décisions que j'aurais dû prendre plus tôt pour pas qu'elles soient prises au pire moment. Ce moment que tu redoutes, au moment où tu dois appeler en disant bah, « En fait, t'étais la bonne personne pour jusque-là, mais là, maintenant, ça va plus le faire », j'aurais dû probablement la prendre 6 mois plus tôt, ça aurait été moins dur.
C'est pour ça que là, justement, chez Netflix, ce qui est intéressant, je dis pas que c'est une bonne méthode, mais en tout cas, moi, ça m'a parlé. Donc, ils ont un slide, en gros, « We are not a family, we are a team ». Pour faciliter ça, ils ont modélisé la métaphore du sport de haut niveau, en fait. C'est « On est ensemble, on va gagner ensemble, mais on n'est pas une famille », avec cette idée de dire, dans le sport, si t'es plus la bonne personne pour l'équipe, eh ben, on va se séparer ou tu vas partir naturellement. T'en penses quoi, toi, de cette idée de ne plus utiliser la métaphore famille ? Parce que avec l'idée de la famille, tu ne t'en sépares pas, entre guillemets.
Ouais, bien sûr. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Ta famille, parfois, tu les vois plus. Hein. Et néanmoins, ils font partie de ton imaginaire, ils font partie de ta construction, ils ont fait partie de toi à un moment donné. Donc, je sais pas si c'est juste. Bah, après, ce qui me vient quand je t'entends, c'est vrai que parfois, il faut savoir se séparer et c'est mieux pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est nul d'être dans un job dans lequel t'es pas en train d'être la star de ton truc. Quoi. Donc, t'as pas envie de t'accrocher, les autres, ils ont pas envie de te garder quoi qu'il en coûte. La réalité de la vie, c'est que les relations, elles existent, quoi qu'il arrive, que le manager, quand il aime bien la personne avec qui il bosse, il a du mal à accepter que ça le fasse plus, que la personne qui bosse, elle a du mal à se dire qu'elle va se séparer de l'équipe si c'était une équipe avec qui il y avait des bonnes relations. Et à l'inverse, quelqu'un qui performerait bien, mais qui s'entend pas du tout avec son équipe, ça marche pas non plus. Donc, je comprends la métaphore de, en fait, on n'est pas une famille parce qu'on peut se séparer, on est une équipe. Mais je crois que toi, tu travailles avec ta famille. Moi, je travaille avec des amis, que je me les sois fait après ou avant. Et dans tous les cas, en fait, c'est ce qui est. Donc, tu peux pas dire, non, mais moi, j'ai une slide Spotify qui dit qu'en fait, même si t'es mon frère, on n'est pas de la même famille. Bah, si. En fait, t'es de la même famille. Et puis moi, je peux pas opposer le fait que on travaille ensemble et du coup, je suis un robot quand je te regarde. C'est pas vrai. Moi, mon associé, on s'est connu au démarrage. C'était vraiment pur boulot. Et aujourd'hui, il est parrain de mon fils. Bon, c'est comme ça. Tu vois, je vais pas me cacher ou faire semblant. En fait, y a rien qui passe. Au contraire, je crois que ce que je trouve riche dans une entreprise, ce que je trouve riche dans une aventure entrepreneuriale, a fortiori, c'est de reconnaître l'humain dans ce qu'on fait, de reconnaître la vie qui passe, y compris les drames, les difficultés. On a eu cette année, je sais pas, il y avait un peu, franchement, la choumoune, tu vois, on avait le Covid et puis il y a eu pas mal d'histoires personnelles dans l'équipe qui ont été assez dramatiques, il y avait des trucs tragiques. En fait, ça passe, quoi. Donc, on va pas faire comme si les gens devaient être au surtaquet alors qu'ils ont vécu un truc horrible. On va pas faire comme si c'était des Wonder Woman ou des Superman alors qu'il y a eu de quoi craquer. Et on est une équipe. Et une équipe, ça peut être aussi fort qu'une famille. C'est-à-dire que quand les gens sont pas bien, le groupe, le collectif se resserre autour de ces gens-là et c'est ça qui est chouette.
Dans une interview, je crois, j'ai peur de me tromper, mais que tu partageais même des trucs très perso. Il me semble que tu as partagé une fausse couche à un moment donné à ton équipe. C'est quelque chose qui est hyper intime, qu'il y a des gens qui partagent même pas leurs amis.
Moi, j'ai un petit problème de rétention d'information de manière générale, mais non, c'est pas que j'ai un problème de rétention d'information, parce que finalement, je me suis aperçue, j'avais ce complexe-là de me dire je suis un peu trop transparente. En réalité, c'est pas tout à fait ça, c'est que quand je pense que je suis traversée par un truc qui impacte les autres, moi, quand je traverse une fausse couche, je deviens relou au bureau, quoi. Ça me rend pas la manager la plus à l'écoute, avec la meilleure vision, qui entraîne les gens jusque-là. Je suis juste physiquement au 36e dessous et moralement pas top non plus. Donc, il y a des choses, faut les expliquer, sinon ça crée du malentendu.
Ouais, ils se disent, bon, pourquoi elle n'est pas en forme ? Est-ce que c'est lié à moi ?
Ouais, en fait, et puis, alors, il y a un truc qui est très humain et tout le monde est d'abord concentré sur son nombril. Donc, quand tu vois un truc qui ne va pas bien en face, tu te dis toujours, c'est ma faute. Tu vois, c'est normal, c'est très, très humain. Et donc, si moi, je ne suis pas bien à cause de moi ou à cause d'un problème médical ou d'un problème psychologique ou n'importe quoi, et que ça transparaît, si je n'explique pas, je cours le risque que les gens s'en sentent responsables. Ça ne leur appartient pas. Tu me demandais tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai retenu de cette histoire de collaborateur dont j'ai dû me séparer, collaborateur ami dont j'ai dû me séparer. J'en ai retenu que dans ce que tu traverses, ce que tu partages avec les autres, il y a ce qu'on appelle ma part de l'écharpe et ta part de l'écharpe. En fait, ce qu'elle nous montrait, c'est qu'une relation, c'est toujours comme deux écharpes qui seraient, tu sais, pliées l'une sur l'autre. Donc, chacun a la sienne et en fait, les deux s'accrochent. Et toi, t'envoies une information et tu dis quelque chose et c'est perçu et reçu d'une façon qui ne t'appartient pas. Et c'est le « qui ne t'appartient pas » qui est important. C'est-à-dire que ce soit reçu différemment, on a tous un peu conscience de ça. Ce que je dis et ce que t'entends. Mais le fait que ça ne m'appartienne pas, la manière dont tu entends les choses, c'est un lâcher-prise qui est très grandissant, je trouve. D'accepter que parfois, tu dis des choses et en face, c'est libre à lui, en fait. Libre à lui de le prendre d'une certaine façon ou d'une autre. Quand je cache des choses très importantes qui m'appartiennent, je ne permets pas à l'autre de le prendre d'une façon qui me paraîtrait légitime. Mais après, de toute façon, ça lui appartient. S'il a envie de penser que j'aurais quand même pu être de bonne humeur malgré ce qu'il me traverse, s'il n'avait pas fait ceci ou cela, ça ne m'appartient pas. Quand j'ai vécu cette histoire avec ce collaborateur, il y a ce que j'ai essayé de faire, il y a eu mon intention, et il y a eu ce qu'il a reçu, et ça ne m'appartient pas. Et lâcher prise là-dessus a été probablement mon plus gros apprentissage.
J'aimerais creuser en soi, mais je vais aller sur l'autre chose dont on parlait juste avant, le côté levée de fonds. Aujourd'hui, ça veut dire que vous n'avez jamais levé de fonds depuis la création de la boîte ?
J'ai fait un tout petit peu de love money au début, d'accord, pour me rassurer en vrai.
Mais j'ai ça représentait beaucoup, combien ?
150 000, dont je n'ai pas tout utilisé.
Pour quelle proportion de la boîte ?
C'était 12%.
D'accord. Tu ne le referais pas, du coup ?
Aujourd'hui, si je repartais comme ça, non, je partirais sans Love Money. Mais je suis infiniment reconnaissante d'avoir eu cette possibilité, parce qu'à l'époque, je crois que je ne me serais pas lancée.
C'est un acte si de j'avais confiance
eu,
aussi.
Ouais, j'ai eu l'impression qu'on me faisait confiance, j'ai eu l'impression, voilà. Mais d'un point de vue pur business, j'aurais pu me débrouiller sans. Dans Love Money, il y a Love, et c'était important pour moi. Enfin, il y avait ce côté très « je te fais confiance et je te montre quelque part ». Enfin, il y a un acte d'amour aussi là-dedans, dans les gens qui, alors qu'on n'a rien, on a un pauvre deck et qui disent « non, mais moi, j'ai envie de mettre ». C'était vraiment chouette. Mais à part ça, d'un point de vue business, honnêtement, je trouve que ça vaut le coup d'avoir des business bootstrap. C'est-à-dire des business, pour autant que le type de business le permette, hein, mais oui. Tant qu'on peut, essayer de d'abord faire rentrer de l'argent, ensuite en faire sortir, c'est bien. Alors évidemment qu'il faut mettre un tout petit peu au début. Et moi j'avais ces 150, mais est-ce que j'aurais pu me débrouiller avec 50 ? Oui, ouais, j'aurais pu me débrouiller avec 50 au départ.
C'est hyper intéressant parce que clairement, je pense que je ne sais pas le chiffre exact, mais au moins 90%, enfin entre 80 et 90%, je pense, des interviews que j'ai faites, sont avec des entrepreneurs qui ont levé beaucoup d'argent. Et là, vu que je suis en phase de recrutement, c'est fascinant aussi le nombre de cabinets de recrutement qui m'ont posé la question de est-ce que j'avais levé, dans l'angle que si je n'avais pas levé, c'était un problème. Avoir levé beaucoup d'argent, c'était une manière pour eux de pouvoir dire que j'ai une bonne entreprise, qu'il faut me rejoindre. Et pour moi, c'est nouveau parce que là-bas, je ne viens pas du monde de la start-up. Ça me passionne de plus en plus et j'ai de plus en plus de clients qui sont dans des start-up. Donc, ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai que je n'avais pas ce prisme-là de me dire ah oui, si je n'ai pas levé, c'est moins bien.
Écoute, pour tout te dire, c'est tellement agaçant cette façon de voir l'univers start-up que nous, on est en train de monter un club d'entrepreneurs autofinancés, enfin bootstrap ou autofinancés.
Bootstrap, ça sonne mieux.
Évidemment. Alors, on l'a appelé, pour l'instant, on s'appelle Bootstrap Baby. Je suis pas sûre que ça reste longtemps, mais, mais toujours est-il qu'il y a cette frustration de voir que parce que tu sais bien vendre ta boîte à des investisseurs, alors ce serait l'alpha et l'oméga de la réussite. Or, dans tout ce que je t'ai raconté depuis tout à l'heure, ce qui est important pour moi, c'est les êtres humains qui vont s'enrichir de ton histoire et de ton collectif. Pour moi, il y a les investisseurs qu'il faut effectivement rémunérer. Moi, j'aspire à rémunérer mon généreux donateur du démarrage. Je crois aussi qu'il faut apporter de la valeur à ses clients, il faut apporter de la valeur à ses salariés. Donc, il y a plein de gens qui doivent ressortir enrichis de cette histoire-là. Et tu ne peux pas avoir une vision où tu presses le citron d'un côté pour que de l'autre côté, ça chiffre assez. Quand tu pars de ce principe-là, ben, tu essayes de ne pas lever le maximum au démarrage et à chaque étape. Si, par exemple, tu as besoin d'avoir des machines-outils, tu peux lever un peu, mais t'essayes régulièrement d'avoir l'approche financièrement la plus viable et la plus durable qui va permettre de bien rémunérer tes salariés, de bien traiter tout le monde aussi, parce que parfois la pression d'investisseur peut être néfaste à un projet de collectif. C'est-à-dire que si tu ne cherches qu'à rémunérer ton investisseur, alors tout ce que je t'ai raconté sur l'entreprise libérée n'est pas possible. Parce que, en fait, d'un côté, moi, je veux telle stratégie de boîte ou je veux telle... Et puis de l'autre côté, tu as un collectif qui décide qu'en fait, on va faire plutôt autre chose. Tu as des investisseurs qui sont très, très ouverts là-dessus et qui font ça très bien. Donc, je ne dis pas que lever est un problème. Je dis que faire les choses avec un seul focus et une seule personne à qui tu essayes de faire plaisir, tu vois, parmi l'ensemble de tes interlocuteurs, ben, ça ne va pas. C'est un écosystème, une entreprise, tu vois.
Pour creuser là, cette notion de lever, de ce que je peux voir là, dans mes clients typiquement qui lèvent, qu'est-ce qui fait typiquement là que tu te dis pas, bon, on a atteint ce stade en autofinancement, ce qui est une vraie belle victoire, mais il y a un peu cette idée de, alors qui je pense s'applique pas dans ton univers comme ça, le winner take it all, mais cette idée de je lève un maximum, je me développe au maximum sur plusieurs pays.
Non, mais tu as des business où c'est nécessaire, hein, je sais pas.
Mais par exemple, pour vous.
Mais pour nous, non. Pour nous, c'est pas la voie qu'on a envie de prendre. En tout cas, pas pour l'instant, c'est sûr. Et en plus,
ouais, c'est ce qui m'intéresse, c'est pourquoi.
Alors pourquoi ? Parce que si je lève, ce sera pourquoi ? Ce sera pour embaucher plein de gens, pour aller dans différents pays et éventuellement et aller développer. Si je fais ça, et c'est très personnel, c'est moi et mon collectif, on ne se sent pas aujourd'hui d'aller faire ça avec les valeurs que l'on a développées dans notre équipe. Et avec les principes qu'on a développés, de le faire d'un coup à grande échelle. C'est-à-dire qu'il y a un temps d'absorption des nouvelles personnes, de formation à nos techniques, tu vois. Nous, c'est notre modèle RH en interne qui est disruptif, donc si, pour pouvoir le proposer en externe. Donc si, soudainement, tu fais x3 sur ta masse salariale, ben, en fait, on va avoir un mal de chien à onboarder tous ces gens-là avec toutes les méthodes qui sont différentes, etc. Et en même temps, on essaye de croître suffisamment vite pour pouvoir quand même intégrer des nouvelles façons de voir, etc. Mais c'est une intégration, tu vois. Pour notre entreprise, je ne crois pas que ça vaille le coup. Enfin, je pense que ce serait assez néfaste à ce stade d'essayer de faire x3. Il nous faudrait une académie en interne pour former les gens. Et ça, en restant rentable, c'est difficile. Donc voilà, aujourd'hui, je sens pas cette possibilité-là. Mais je ne dis pas qu'on n'y viendra pas.
Oui, clairement, c'est bien entendu.
En fait, il y a plein de moments dans la vie où ça peut valoir le coup. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de vertus. Moi, j'ai été très heureuse jusqu'à présent de faire très attention à mes coûts, d'avoir une vision extrêmement fine de notre rentabilité, de faire de la croissance sur notre rentabilité. Enfin, tout ça a été très chouette. Et après, il y a eu plein de problèmes. Parce que quand je te dis, moi, c'est important pour moi que le modèle soit durable pour les salariés, pour les clients, etc. Parfois, c'est une croyance, tu vois, parce que en fait, les entreprises qui lèvent énormément et qui espèrent, tu vois, qui visent l'IPO, elles ont des salaires qui sont faramineux par rapport à des entreprises qui sont sur des métriques classiques d'entreprises rentables, tu vois, ou de grands groupes. Tu peux pas rivaliser avec des boîtes qui ont levé 30 millions et qui doivent tout de suite recruter 100 personnes. En fait, si tu dois recruter en quelques semaines 50 personnes, tu es obligé de proposer des salaires très au-dessus du marché. Donc, quelque part, tu pourrais dire bah, y a de la valeur pour tout le monde. Oui, mais souvent, c'est au prix de cramer pas mal de gens. Et je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais souvent, quand même, des très, très grosses levées crament pas mal de monde au passage parce que intégrer tout ce monde-là, créer une culture d'entreprise avec tous ces gens qui arrivent d'un coup, bah, c'est compliqué.
C'est clair, je ne sais pas comment ils font.
Ouais, bah, nous, on intervient parfois là-dessus, mais c'est vraiment pas facile d'intégrer proprement les gens. Et donc, si tu veux rien cramer, Moi, mon idée, c'est tu peux lever autant que tu veux, mais il ne faut pas cramer ni le cash, ni les hommes.
En parlant d'intégration, d'onboarding, c'est quoi les hacks, les bonnes choses à intégrer à un bon onboarding là, si on faisait un onboarding de 90 jours?
Bah déjà, ils commencent avant le jour de leur rentrée.
Ok.
Tu vois? Déjà, avant, quand on s'est topé dans la main, garder le contact, c'est important. Donner envie, c'est important. Montrer que la personne est attendue. C'est le basique, hein. Déjà prévoir son matériel, prévoir ses premières réunions. Enfin, tu vois qu'il n'arrive pas en se disant, mais alors attends, moi, mon manager, il est en vacances.
Le cliché, t'arrives, t'as rien et t'attends
t'as rien,
une journée.
T'as pas d'ordi et tout. Nous, on a des toolkits qui sont tout prêts, dans lesquels, en fait, les gens arrivent et ils ont toutes leurs tâches sur 6 mois, mais c'est très détaillé sur les 2-3 premières semaines et puis après, c'est élargi un peu. Et donc, ils se sentent attendus avec tout ça. Ça, c'est déjà la première chose. Et puis après, il y a une histoire de... Alors, dans le collectif, on essaye beaucoup de faire attention aux nouveaux. Il y a un côté prendre un temps de café. Je rencontre tous les nouveaux, soit dans leur dernier entretien valeur, soit juste après qu'ils arrivent pour un café. On parle vraiment de perso. Tu vois, dans les deux cas, c'est un truc où on parle vraiment perso, dans la limite de ce qu'ils veulent dévoiler. Mais ce que je veux dire, en tout cas, authentique. C'est pas dévale-moi ta vie, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de venir nous rejoindre, en quoi ça te touche cette histoire. Tu vois, c'est des choses comme ça. Et après, je pense que le dernier tip, c'est de se dire que quand quelqu'un arrive, qu'il soit junior ou senior, il a besoin d'un management plutôt directif. Alors là, j'utilise des termes qui sont de management transactionnel, mais en gros, ce qu'on veut dire, c'est que quand quelqu'un démarre, il a besoin d'un management plutôt directif. Je dis, tu fais. Ensuite, il passe à tu proposes, je décide et tu fais. Et ensuite, c'est tu proposes, tu décides, tu fais, quoi. Au début, tu peux prendre quelqu'un qui a 35 ans d'expérience, il va quand même falloir dire, je dis, tu fais. Et même si on est dans ton entreprise libérée. Pourquoi ? Parce que t'es juste paumé quand t'arrives, tu connais pas la culture de la boîte, tu sais pas ce qu'on attend exactement de toi, et donc ça peut durer très peu de temps. Mais il faut passer par cette phase qui est rassurante pour tout le monde et qui permet de se sentir très vite utile. Il faut donner des tâches où les gens sont très très vite utiles. C'est-à-dire même des trucs qui traînent, que personne veut faire parce que c'est long, je sais pas quoi. Tu peux tout à fait donner ça à un nouvel arrivant parce que le nouvel arrivant, aussi bon et senior soit-il, en fait, quand il va pouvoir faire ça, il va d'abord se rendre utile, ensuite il va apprendre des trucs. C'est très rassurant plutôt que de devoir se balader tout seul dans le drive et aller chercher les docs et tout. Donner un truc utile à faire tout de suite, c'est très rassurant. Et puis après, il faut arriver à lâcher la bride au bon rythme. Donc après, il faut commencer à dire, bah, écoute, là, je crois que tu sais, donc maintenant, va faire ton premier client à 2 millions tout seul. OK, tu as rencontré toutes les équipes. Nous, il y a tout un parcours où tu dois rencontrer toutes les équipes, faire un certain nombre d'entretiens, faire un certain nombre de rendez-vous clients. Quand bien même tu serais au dev, tu dois faire ça dans ton onboarding.
Et tu as de la doc à lire sur, par exemple, les
évidemment.
Valeurs, la mission.
Évidemment. Et tout ça est recensé dans l'onboarding pack. Tu lis tous les docs qui sont produits. Si tu trouves qu'il manque un doc, tu le produis. C'est-à-dire que si tu as eu besoin d'aller poser la question à moi, à Lucas, à qui que ce soit dans la boîte, sur un truc qui t'a pas paru clair, tu crées le doc, tu le rajoutes à l'onboarding pack. Que le mec d'après soit pas dans la même galère que toi, quoi.
Et en interne, chez vous, la formation, elle se fait uniquement via des formateurs? Il y a de la vidéo, il y a des livres, c'est comment les gens, ils grandissent
Il y a tous les rendez-vous que tu dois faire avec les gens, il y a des docs, il y a des formations en interne qui sont faites par nous et puis certaines par d'autres. Il y a un peu de tout. On n'a pas une taille où on a encore fait des MOOC, tu vois, Special Ignition, mais il y a des choses qui sont parfois, on a filmé des rendez-vous où on a pris en dictaphone certains trucs qui du coup servent. Il y a de la formation continue tout le temps. Tu vois, moi, tous les mercredis matins, je participe à la formation Sales. Ça me prend quand même la matinée.
C'est-à-dire à quel niveau?
Et ben,
dans quelle posture,
c'est,
du coup?
Et ben, c'est, en fait, c'est la formation Sales. Le principe, c'est que maintenant, on est à peu près autonome sur le modèle. Ça a été mis en place par un très bon formateur qui s'appelle Jab. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que les plus seniors organisent les équipes, les animent. Les plus juniors donc, arrivent avec leurs problèmes de la semaine. Genre, alors voilà, cette semaine, ce qui a été vraiment difficile pour moi, ça a été de défendre le prix, par exemple. Un truc hyper... rare, tu vois. Ils arrivent avec leurs problèmes, le senior hiérarchise, dit OK, bah, on va organiser une simulation sur ça, ça, ça. Et moi, je viens toutes les semaines dans un groupe et je fais soit le client, soit je fais la simulation moi-même. Et souvent, à la fin, je propose quelque chose que j'aurais pu faire. Non pas que je sois la meilleure commerciale de la boîte, mais souvent, j'ai une façon d'aligner le discours entre le fond de ce qu'on veut faire et la forme de ce qu'on dit qui aide les gens à retrouver leurs repères. Après, ils raccrochent ça avec toutes leurs méthodos.
Ton agenda, il ressemble à quoi dans une semaine? C'est quoi tes missions? C'est quoi ton quotidien, en fait?
Le plus structurant pour moi, c'est mes rendez-vous avec les gens que je manage en direct.
T'en as combien?
J'en ai 3 dans la semaine. Donc, en fait, sauf qu'il y en a un, c'est pas que je le manage, c'est que c'est mon associé. On change souvent de truc. Il a longtemps été responsable du commercial. Il est très, très bon en commercial. Et là, il s'occupe de la partie finance et marketing. Et j'ai 2 autres personne en direct qui s'occupe l'une de la partie, toute la partie recrutement et l'autre de toute la partie conseil formation.
Et donc, ça a des meetings d'une heure avec eux chaque semaine?
Avec mon associé, on est plutôt sur une demi-journée parce qu'en fait, on fait avancer énormément de sujets de fond. Par exemple, là, on est en train de retravailler complètement la grille des salaires. Et avec les 2 autres, j'ai un rendez-vous d'une heure et demie. On prépare à l'écrit, on se dit, bon, ben voilà, moi, j'ai tel et tel sujet que j'aimerais aborder parce que cette semaine, j'ai entendu ça, ou moi, j'ai tel problème que j'arrive pas à craquer. Donc, aide-moi à discerner, à décider, etc. Et mon rôle, c'est d'apporter de la matière pour discerner, pour décider, etc. Parfois, de faire un peu push décision. Je pense que mon rôle principal dans la boîte, c'est push décision. Tu vois, j'essaye de faire en sorte que les gens arrivent à prendre leurs décisions et que s'ils ne sont pas assez éclairés, s'il y a besoin, ça remonte de la même manière. Hein, c'est subsidiarité. C'est-à-dire que tout ce qui peut être pris pas par moi, ben, c'est pris pas par moi. Et puis, si je vois que ça, c'est trop galère, je dis OK, est-ce que c'est bon pour toi si je reprends? Et je reprends.
Et tu as une idée de combien de temps tu bosses dans une semaine?
Oui, j'ai une idée parce que comme j'ai 3 enfants, je suis obligée de mettre des règles. Parfois, je commence tôt, mais ce n'est pas souvent. Ce matin, j'ai commencé un peu avant que les enfants se réveillent. Après, j'emmène les enfants à l'école. Je démarre à peu près. Je cours sur le trajet du retour. Je me prends une douche glacée rapide. Et donc, je suis au travail à peu près à 9h10, 9h15. Et après, je dois terminer à 20h parce que c'est l'heure où la nounou repart. Le week-end, j'essaye de ne pas bosser, mais ça m'arrive. Ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite ni pour nous, ni pour nos équipes. Quand on voit que ça dérape trop le week-end, travailler un week-end parce que tu as réglé ton travail un peu différemment, parce que dans la semaine, il y avait, je ne sais pas quoi, un truc chez le médecin ou je ne sais pas quoi, et que du coup, tu as besoin de re-réguler ton espace de travail avec le week-end, c'est OK. En revanche, parce que tu es débordé, parce que tu as fait de 8h à 20h tous les jours et que le week-end encore, tu y passes la journée, ce n'est pas OK pour nous, ni pour les dirigeants, ni pour les salariés. Donc en fait, déjà, il y a des règles. Il n'y a pas de mails qui partent ni le soir, ni le week-end.
Okay.
Donc c'est interdit.
Vous utilisez Slack?
Ouais, on utilise Slack. Du coup, il y a les notifs qui s'endorment. Normalement, si tout va bien, tu peux envoyer et ce n'est pas reçu avant le lundi matin. Parce que tu sais, pour se soulager soi de son stress du week-end, envoyer son stress à quelqu'un d'autre, ce n'est pas cool en fait. C'est pas sympa. Donc, en fait, on fait pas ça. Non, dans l'ensemble, on essaye de préserver ça. J'ai beaucoup mieux respecté mon rythme depuis que je suis entrepreneur qu'avant d'être entrepreneur. Avant d'être entrepreneur, j'étais consultant, je me sentais corvéable à merci. Puis surtout, j'avais l'impression que plus je travaillerais, plus j'aurais des résultats. Et en fait, je suis devenue entrepreneur et je me suis rendu compte que c'était pas toujours corrélé.
L'effort et le résultat.
Ben non, parce qu'en fait, quand t'as une équipe... Enfin, tu vois, moi, ce que je peux faire en marginal sur les 2-3 heures que je vais bosser en plus... Ça va être tout pourri. En fait, divisé par 50, c'est minus. Alors que si je suis bien dans ma tête, parfois j'ai embarqué mon associé et d'autres gens dans la boîte. Ça m'est arrivé de faire une après-midi yoga pour toute la boîte, pour montrer que en fait les gens étaient en cramage. Tu vois, c'était cet hiver. Les gens étaient à bout. Je dis, mais en fait, vous croyez que là, si vous bossez pas tard le soir, ça va couler? En fait, je vais vous montrer un truc. On va tous arrêter. On va faire du yoga là pendant une heure. Puis après, vous n'avez pas bossé.
C'était en remote, du coup, c'était comment?
C'était en remote. Donc, on a fait du yoga en remote pendant une heure. Puis après, j'aurais dit, c'est après-midi off. Et vous allez voir qu'on va pas couler. Et que probablement, on fera un meilleur mois que si on n'avait pas fait ça. On a fait un bon mois. Et c'est des trucs que je fais souvent. J'embarque dans mon collectif de dirigeants, là. Je découvre qu'en fait, tu n'es un bon dirigeant que si tu as du recul et que tu vois les choses. En fait, notre rôle de dirigeant, c'est de voir les angles morts pour toute une équipe. Alors déjà, à 50, je trouve ça pas facile, mais j'imagine à 4000 ou à 10 000, ça doit être... Enfin, moi, j'ai pas forcément l'intention d'arriver là, mais je vois les autres dirigeants et je me dis que soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, c'est des challenges énormes. Et pour avoir cette lucidité, il faut pas faire ce que toi ou parfois moi, on fait, c'est-à-dire avoir des journées où...
Il n'y a plus d'espace.
Il faut de l'espace. Il faut créer de l'espace. Je crois très fermement en ça et je suis pas encore totalement arrivée au but. Mais j'y aspire.
Le but, ce serait quoi, du coup?
Le but, ce serait d'avoir des temps qui seraient dédiés, qui seraient systématiques, où je pourrais aller me nourrir d'autres choses. Rencontrer d'autres gens qui n'ont rien à voir avec mon business, pas faire un rendez-vous avec un objectif, et aller me nourrir d'autres choses, parce que c'est dans ces rencontres-là qu'en fait, on a des... Et de temps en temps, j'y arrive quand même. J'ai ces groupes de dirigeants qui sont quand même... Alors, certes, c'est bien cadré, On se dit, mais non, mais on sait pourquoi on y va. On va rencontrer d'autres dirigeants qui vont nous apprendre des trucs sur notre organisation. Mais en réalité, c'est vrai que quand tu y es, c'est pas ton problème du moment, tu vois, que tu gères. C'est des trucs long terme. Donc, c'est bien aussi, c'est nourrissant. Puis, tu rencontres d'autres gens. Mais il faut arriver à le faire beaucoup plus systématiquement. Il faudrait que je puisse aller voir, tu vois, aujourd'hui, des trucs que je fais pas, c'est d'aller voir des expos. Aller voir des expos, j'ai toujours fait sur mon temps perso, mais je suis sûre que ça me nourrirait aussi d'aller faire, je sais pas, peut-être embarquer un autre entrepreneur et aller voir une expo avec lui. Peut-être ce serait la meilleure façon d'utiliser ma journée. J'en sais rien, tu vois, là je te l'improvise, mais je crois fermement que s'ouvrir permet de prendre des décisions beaucoup plus sharp. Et ce que j'ai toujours constaté, c'est que quand tu prends un peu de recul, quand tu étais en train de te noyer dans un verre d'eau, prendre une journée complètement off, y compris des enfants, et se réouvrir l'esprit, tu prends des décisions, mais tu gagnes des mois, en fait. C'est pas que tu gagnes une journée ou quoi, c'est que tu gagnes des mois de « on tourne en boucle sur un sujet ». Ça, je l'ai déjà constaté. Donc, voilà, j'ai envie de ça.
Ça m'inspire et c'est vers ça que j'ai envie d'aller aussi. Des petites questions rapides, après on parle de recrutement. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire le plus chez les autres ?
Leur capacité à comprendre ce qui se passe entre les gens. C'est souvent le cas avec mon associé quand je vois quelqu'un qui pige ce qui s'est passé. Moi, je trouve ça toujours assez magique.
De ce que j'ai entendu, t'aimes bien toute la dimension psychologie et ce qui se passe entre les humains.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'agace le plus chez les autres ?
Quand ils veulent pas s'intéresser à un sujet qui est pas leur cœur de truc. Quand ils font pas l'effort d'aller s'intéresser à d'autres sujets parce que ça les nourrirait, mais qu'en fait, ça les emmerde. Par exemple, la finance, ça emmerde plein de gens. Moi, ça m'agace parce qu'en fait, c'est très nourrissant et que ça te fait comprendre plein de trucs et que tu prends de la hauteur de vue. Voilà, moi, ce qui m'inspire, c'est la hauteur de vue. Et ce qui m'agace, c'est les gens qui ne veulent pas élargir pour pouvoir prendre de la hauteur. Tu peux pas prendre de la hauteur si tu n'as pas élargi tes centres d'intérêt.
C'est quoi un des meilleurs conseils business qu'on t'ait donné ?
Je vais me répéter parce que je raconte souvent, mais j'aime beaucoup cette histoire-là. C'est que c'est un coach d'incubateur qui m'avait dit, quand je me suis lancée et que je commençais à paniquer en disant « Oh là 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 là, maintenant il y a les salaires, je suis embarquée et tout. » Il m'a dit « Mais en fait, t'es comme Christophe Colomb au milieu de l'Atlantique. T'as plus assez de vivre pour faire marche arrière, donc maintenant tu profites de la croisière et du soleil et de la mer. » Voilà.
Et ça a fait quel changement ?
Ah, ça a tout changé. C'est-à-dire que d'un coup, je me suis dit « Ah bah ouais, ok, on est là pour... » En fait, c'est fait. Donc maintenant, tu profites et si ça se casse la gueule, ben ça se cassera la gueule. Et donc, c'est comme ça que je profite des relations humaines, je profite des amitiés, je profite de tout en me disant « Bah ouais, il y aura peut-être divorce à la fin, il y aura peut-être catastrophe, il y aura peut-être plus de salaire, il y aura peut-être plus rien. » Mais en attendant, qu'est-ce qu'on aura kiffé ? Et grosso modo, dans le collectif, je crois qu'on aura bien kiffé.
Si t'es stressé ou alors submergé par trop de choses à gérer ou à faire, c'est quoi ta stratégie pour...
Courir.
Quel conseil tu donnerais à la personne que t'étais il y a 10 ans ?
Quelque chose comme... Et capable de plus que ce que tu crois.
Ça, c'est un message que tu veux et ou donnes à tes enfants, celui-là ?
Je leur dis surtout, c'est marrant, si tu poses la question comme ça, je leur dis souvent, ce que tu fais, c'est toujours mieux que ce que tu fais pas. Par exemple, mon petit deuxième, là, il adore faire des robes à ses poupées lui-même. Il dit qu'il veut être styliste. Et je lui dis, ah, tu sais, moi, j'osais pas quand j'étais gamine parce que tout ce que je faisais, j'avais l'impression que c'était pas beau. Du coup, je faisais rien. Mais en fait, du coup, je m'entraînais jamais, puis je pouvais rien devenir. Je n'avais pas l'intention d'être styliste, mais je ne devais rien, à pas t'entraîner. Je lui dis à mon fils, mais tu peux si tu acceptes que tu n'es pas tout de suite Karl Lagerfeld. Aujourd'hui, tu es Gabriel, tu as 9 ans et tu essayes de faire des petites robes à tes poupées. Quoi. Il a très bien compris le conseil parce que souvent, il vient me voir en me disant, toi, tu n'aurais pas pu faire une robe comme je viens de faire. Hein? Ben non, mais parce que toi, tu n'avais pas confiance en toi. Et je lui dis, ouais, elle est très bien ta robe. Et puis au moins, elle existe.
C'est clair, ça c'est un truc qui est difficile à intégrer en fait, que tu fais quelque chose, t'es mauvais, du coup tu peux te faire critiquer ou t'es pas à l'aise avec le potentiel critique, donc tu t'entraînes pas, tu progresses pas. Moi j'ai eu le problème avec les vidéos au début, je voulais pas faire de vidéos parce que je me trouvais nul, mais si tu fais pas de vidéos, tu deviens pas bon.
Et tu sais ce que je dis souvent aussi à mes enfants et que j'ai beaucoup dit aussi à mes équipes, c'est en fait si un bébé qui apprend à marcher, il se disait, à chaque fois qu'il tombe sur le cul, c'est pas fait pour moi, je crois que je vais pas marcher. Je vais rester à ramper, parce que manifestement, j'aurais peut-être d'autres talents, mais pas celui-là. En fait, personne marcherait.
On tu vois
le nombre de fois où un gamin, il se fait mal. Et là, mon gamin, il a 1 an, il a passé 2 mois à se taper sur le sol, à se faire abominablement mal. Bon, il marche. Hein.
Toi, tu disais, je crois qu'avoir été maman, ça a ouvert une case dans ton esprit de tout est possible, plus ou moins.
Totalement.
Tu peux en parler ?
Ça a ouvert une case en moi qui était, si tu peux t'occuper d'un être qui vit, enfin, dont la vie et la mort dépendent de toi et de ce que tu prends la bonne décision, alors franchement, monter une boîte, c'est, tu vois, et même dans le boulot, tout ce que je peux faire, ce sera moins difficile que ça. et moins responsabilisant et moins lourd.
C'est beau en tout cas, franchement, d'arriver à faire ça. Je pense que t'inspires beaucoup de gens et même beaucoup de femmes qui s'imposent des limites à ce niveau-là.
On s'en impose tous, hein, mais c'est vrai que les enfants, je trouve que ça ouvre beaucoup de cases. Moi, j'ai toujours pensé qu'un congé maternité, tu en reviens pas comme t'es parti. Et je crois que c'est en beaucoup mieux.
T'as un livre préféré ?
Celui que j'ai préféré, c'est Système 1, Système 2, là, Thinking Fast and Slow. Un autre livre que j'ai souvent recommandé et qui m'a beaucoup aidé, c'est Happiness Advantage de Sean Acor. Parce que j'aime beaucoup cette façon de voir le monde en se disant il faut arrêter d'essayer de régler les problèmes, mais essayer de créer de la joie en plus, c'est important aussi, quoi. Et donc, il a une philosophie et une méthodologie pour que les gens soient mieux dans leur boulot.
D'accord, donc c'est pas un bouquin de dev perso pour soi, c'est en tant que...
C'est dans le travail, donc tu peux l'appliquer, j'imagine que tu peux l'appliquer à toi, mais tu peux l'appliquer à ton mode de management.
Quel conseil, selon toi, on donne beaucoup aux entrepreneurs que tu penses que finalement, c'est plutôt une mauvaise idée ?
De lever très vite. Ça, je crois que c'est pas forcément une bonne idée. Je pense qu'il faudra attendre le plus possible.
C'est quoi un des meilleurs investissements que t'es... fait dans ta vie, que ce soit un investissement argent, temps, énergie, peu importe la forme.
Bah, c'est probablement pour mes enfants quand même, c'est-à-dire en termes de temps, mais c'est évidemment le meilleur investissement. Et puis après, je pense cette boîte quand même, qui m'apporte beaucoup plus que de l'argent. Et pourtant, au début, j'y ai mis un peu tout ce que j'avais, quoi.
Il y a 3-4 ans, on a fait face à un problème de taille qui me frustrait énormément. On stagnait vers les 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et je comprenais pas comment m'en sortir. Jusqu'à ma rencontre avec Marc Simoncini où j'ai réalisé qu'un super entrepreneur, c'était pas quelqu'un qui était une machine en marketing, mais quelqu'un qui était une machine à recruter des talents. Et par hasard, en appelant la directrice du recrutement d'une des licornes françaises, elle m'a dit « J'ai entendu parler d'un outil dont l'investisseur principal de Notion, qui est un outil que j'adore, a investi dedans. » Cet outil, il s'appelle HB. Et quand je l'ai testé, il y a 4 choses que j'ai vraiment adoré avec eux. La première, c'est qu'ils sont vraiment exceptionnellement bons pour construire du reporting et des dashboards qui sont vraiment clairs et arriver à extraire la data que j'avais besoin. La deuxième chose, c'est que souvent, les outils de recrutement permettent de juste faire l'ATS et de gérer la relation d'un candidat qui vient de postuler, mais qu'il fallait utiliser d'autres outils de recrutement qui peuvent coûter jusqu'à 3 000 $ par employé pour pouvoir faire ce qu'on appelle du sourcing. Et là, ils étaient en train de construire une extension sourcing inclue dans le package global. La troisième chose qui était importante pour moi, c'est que je sais que les équipes ont du mal à utiliser un outil qui n'est pas facile et intuitif à utiliser. Et ils ont mis un énorme effort dans l'UX et l'UI. C'est intuitif. Et la quatrième chose qui était importante pour moi, c'est d'avoir une API publique ouverte qui permette d'automatiser un maximum de choses. On s'est obsédé là-dessus, ce qui nous a permis de pouvoir absorber, alors qu'on avait une équipe de recrutement que de 2 personnes, on a reçu plus de 50 000 candidatures l'année dernière. T'imagines, quand t'es une boîte comme nous de 60, c'est hyper dur à gérer. Mais on a pu automatiser des filtres automatiques, des relances automatiques. On peut avoir des systèmes d'alerte pour savoir si on n'a pas géré un candidat, pour préformater la manière de recruter les personnes en fonction de chaque poste. Bref, c'est dingue. HB, on l'utilise maintenant depuis plus de 6 mois et franchement, c'est en train de nous permettre de créer de la talent density. Et donc, je t'invite à regarder dans la description, regardez HB, c'est vraiment un outil incroyable. Aujourd'hui, Paradox, c'est quasiment 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et je pense qu'on a mis en place le système de recrutement qui va nous permettre d'aller jusqu'aux 100 millions de chiffre d'affaires. Donc HB, gros coup de cœur. Alors parlons de recrutement rapidement, parce que c'est un sujet qui est dur, je trouve, et qui est hyper important. Moi, ça a été un déclic il y a 2 ans de me dire je mets aucune valeur sur le recrutement. Je réalisais pas que le fait de faire des millions de vues sur Internet, on avait forcément du coup plein de gens qui candidataient. J'étais extrêmement passif dans mon recrutement, c'est-à-dire que c'était des gens qui venaient à nous ou au plus actif, moi qui envoie un mail sur ma propre liste email. Donc c'est limité en termes de process. Et j'ai réalisé justement ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ben, si ma boîte se développe uniquement à ma volonté, c'est extrêmement limité et qu'à l'inverse, m'entourer de bonnes personnes qui partagent une même mission, une même vision, ça pouvait nous permettre de créer des choses bien plus inspirantes pour les autres et pour le monde et moi aussi me permettre de prendre de la hauteur. C'est quoi les 2-3 astuces hyper importantes à internaliser pour se construire la bonne équipe ? pour soi?
La première chose, c'est d'être très clair justement sur la mission, la vision de ce que tu fais, parce que tu attireras à toi les bonnes personnes déjà. Un des tips qui est important, c'est de sourcer en permanence, c'est-à-dire d'être en permanence en train de te demander s'il n'y a pas des très bons autour de toi. On a développé tout notre modèle en disant on va d'abord aller chercher des très bons, ensuite on va les placer, ce qui est assez rare, les chasseurs de tête, ils font à l'envers, ils demandent t'as besoin de quoi, et puis après ils vont chercher sur LinkedIn en fonction du CV. Nous, on va d'abord sélectionner des gens qu'on trouve très très bons. D'abord, ça permet de les connaître un peu différemment un peu différemment de leur CV. Et ensuite, on va les placer. Mais à l'échelle de chaque boîte, on peut faire ça. C'est-à-dire qu'on peut en permanence demander, tu as plein de contacts, demander est-ce que tu connais quelqu'un de vraiment très très bon dont tu penses qu'il serait top chez moi. Parce qu'il y a les deux questions. Est-ce qu'il est vraiment très bon? Et est-ce que, par rapport à la vision et à la mission que je raconte à ceux que je rencontre, est-ce que tu penses que ça fit? Donc ça, c'est pour le sourcing. Et puis après, de très bien définir, on pourrait dire la fiche de poste, mais la fiche de poste, ça va faire peur aux entrepreneurs parce que pour travailler dans cet univers-là, souvent, l'objectif à 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est pas toujours très clair. Donc ce qui est important, c'est de dire, non pas les compétences que tu recherches, mais en gros, l'obstacle que tu cherches à franchir avec cette personne-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as besoin d'un gros hacker, c'est pourquoi? C'est quoi ton plus gros pain? Tu seras super content dans 6 mois s'il s'est passé quoi avec cette personne-là. Et donc, être très clair sur l'obstacle que tu cherches à franchir et le placer à une ambition suffisante pour que les gens qui n'ont pas la capacité de faire ce truc-là voient tout de suite et ne postulent pas à la limite. Et au contraire, les gens qui vont avoir le niveau vont te dire « Attends, moi, ce truc-là, ça m'amuse. Quoi. Moi, je pense que je peux faire ce truc-là. » Et donc là, tu auras les personnes du bon niveau. Donc, caler et communiquer sur l'objectif à 6 mois, 1 an très clair de ce recrutement, pourquoi tu le fais. Et il faut aller un peu plus loin que me soulager de trucs parce que tu veux te soulager dans la mesure où tu as telle ambition. Donc en fait, la question c'est pars du principe que tu ne le feras pas. Quand tu vas recruter, il va se passer quoi du coup de différent si tu n'avais pas recruté? C'est ce truc-là sur lequel il faut bien communiquer. Après, il faut analyser les candidatures. Moi, ce que je prône souvent, enfin pas souvent, depuis le début de cette histoire, je prône le fait que les gens ont des patterns. On refait éternellement la même chose de manière différente, c'est ça qui nous fait grandir, mais on refait un peu les mêmes choses. Et en fait, je crois que les gens qui sont très très forts dans quelque chose, ils l'ont déjà fait, même si ce n'était pas leur métier. Ils ont déjà fait différemment. Nous, on est un peu les spécialistes du changement de métier, parce que c'est très facile dans la vie perso de quelqu'un d'aller chercher aussi, ou dans ses side projects ou quoi, des moments où en fait il était déjà très fort dans un truc dont c'est pas son métier aujourd'hui, tu vois.
Oui, par exemple, t'as besoin de quelqu'un qui est bon en organisation et en gestion, il a pas été manager, mais dans sa vie, je sais pas, il organisait des soirées.
Ouais, c'est déjà un leader, tu vois, qu'il a ce qu'il faut par rapport à ton besoin. J'avais dans mon équipe quelqu'un qui était à temps partiel et son 5/5e. Il était adjoint au maire, donc tu te dis, bah, rien à voir en fait, adjoint au maire de Sens, tu vois, donc une belle ville, mais tu te dis vraiment rien à voir avec le recrutement. Et en fait, quand il a progressé un jour, il a pris naturellement la tête de toute notre équipe commerciale parce qu'il pilotait 600 personnes en fait dans sa mairie. Ça a été vraiment un switch très très souple, enfin smooth pour lui, tu vois. Et ça a été chouette cette histoire-là, mais t'as plein d'autres façons de repérer quelqu'un qui a des patterns. Et en fait, cette personne-là, c'est un leader, tu vois. Il y arrive très bien et de fait, il se trouve des rôles dans lesquels les gens lui font confiance, le suivent, adhèrent à ce qu'il dit.
Chez Ignition, vous avez, je me souviens plus les 3 mots que c'est 3 mots un peu drôles.
Ouais, nous, on recrute énergie, cambouis, génie.
Et comment tu les assesses?
Alors, en gros, nous, on recrute pour les projets entrepreneuriaux, donc que des projets qui vont être en forte croissance, avec beaucoup de créativité, tu vois, donc même si on est dans des boîtes parfois qui ont déjà 200, 300 personnes, tu as encore une très forte dynamique avec de nouveau des sujets très entrepreneuriaux. Notre manière de les sélectionner, c'est de dire énergie, c'est l'esprit d'initiative, grosso modo, hein, c'est ce côté très entrepreneurial qu'on appelle énergie. Le cambouis, c'est être capable de mettre les mains dans le cambouis, c'est pas le même cambouis pour tout le monde, tu vois. Parfois, y a des boîtes, par exemple, quand on travaillait avec des boîtes de coworking, on nous disait, ben ouais, mais il y a des soirs, en fait, les gens de l'intendance sont pas venus, moi, il faut que je sorte les poubelles moi-même, il faudra que j'ai des coups de main, quoi. Je peux pas avoir des gens qui ont pas envie. Donc ça peut aller jusque-là, ou ça peut être quelqu'un qui fait du marketing et qui veut pas aller voir un client parce que le commercial, je connais pas, j'ai peur, ou quelqu'un qui oserait pas aller mettre les mains dans un Excel alors qu'il est commercial. En fait, tout le monde a son cambouis un peu en dehors de son périmètre de facilité. Tu vois.
Comment tu l'évalues dans un entretien ou dans une série d'entretiens, ce cambouis?
Tu regardes en fait si les gens en fait privilégient l'objectif au chemin, tu vois. En fait,
par exemple, quelle question tu vas poser?
C'est toujours le même framework, c'est pour chaque expérience, on demande quel était ton rôle, quels étaient tes objectifs, à quel point tu les as remplis, et puis après, de quoi tu as été fier, de quoi tu as été moins fier. Et en fait, dans ce pattern-là, on arrive très très bien à voir si, pour atteindre les objectifs, les gens sont passés par des chemins qui étaient le chemin classique de leur métier, ou si, de temps en temps, on prend des raccourcis parce que, même si c'est moins agréable, moins machin, c'est plus efficace, du coup, on atteint l'objectif plus vite. Et ça revient à notre troisième dimension, qui est ce qu'on appelle génie. C'est une des intelligences qui est de trouver des solutions simples à des problèmes compliqués. Tu vois bien dans les histoires des gens, quand ils te racontent de quoi ils ont été fiers, s'ils ont rempli leurs objectifs, etc., tu vois bien si les gens, ils ont pris le chemin le plus malin ou le chemin de la zone de confort. Parfois, le chemin de la zone de confort, il marche très bien. Quand les gens se racontent et qu'ils racontent un peu leur fierté, les malins, tu les vois, quoi.
Donc la question là, c'est, raconte-moi une fierté professionnelle, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah non, moi, la question que je pose, c'est toujours, de quoi tu as été le plus fier?
Dans ton expérience pro.
Ouais, dans cette expérience-là. C'est quoi le moment où vraiment tu te dis, là, j'ai cartonné? Et il faut que ça appelle aux émotions, parce que c'est là que tu as les réponses les plus intéressantes.
Et qu'est-ce qui serait un drapeau rouge? Enfin, qu'est-ce qui serait genre, oula?
Ça dépend vachement du contexte. Mais tu peux avoir des réponses qui sont très auto-centrées, par exemple. Par rapport à fierté, tu vois le niveau d'ambition que les gens se fixent. Déjà, c'est quoi le niveau de fierté que tu vois? Qu'est-ce qui te rend fier? Si c'est non, mais j'étais presque à mes objets. Tu te dis bon, super. Tu vois, s'il n'y a pas de contexte de difficulté, tu te dis bon. Pour mon équipe, par exemple, je fais très attention à ce que les réponses prennent en compte le collectif. C'est-à-dire que je ne suis pas très à l'aise avec les gens qui vont me dire oui. À ce moment-là, ça ne m'a pas convenu, mais il ne s'est pas posé la question de savoir qu'est-ce que ça faisait à l'autre. Quand tu recrutes quelqu'un, tu as besoin de quelqu'un pour une équipe. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui, quand il te dit qu'il est très fier, en fait, il a assassiné tous ses concurrents dans la boîte, ou que quand il est moins fier, c'est qu'il n'a pas réussi à dépasser l'objectif. Enfin, tu vois.
Le voisin.
Ouais, enfin, je fais un peu attention à ça. Alors là, je te donne des exemples, mais en réalité, ça ne marche pas comme ça. Chaque personne est unique et tu as des gens qui vont me dire ça et ça passe très bien parce que c'est dans une histoire qui se comprend, ouais, avec un contexte professionnel qui se comprend. Je fais très attention aux réponses qui ne sont pas authentiques aussi. Réponses qui sont très, très calculées, froides. Non, mais j'ai été fière d'avoir dépassé l'objectif. Oui, certes, mais pourquoi, tu vois? Enfin, évidemment que tu es fière de dépasser l'objectif, mais si tu me dis juste ça comme ça, c'est un peu sec et je ne sais pas qui tu es et je ne sais pas ce qui te rend fière. Souvent, c'est parce que, du coup, on a vu la fierté dans le regard de ses collaborateurs, ou c'est parce qu'on a accompagné quelqu'un à réussir, ou c'est parce qu'on avait une revanche à prendre sur un truc passé qui ne nous avait pas plu. Tu as plein de drivers possibles. Je suis un peu inquiète quand je ne comprends pas ça, parce que du coup, je ne peux pas savoir si ça correspond à ma boîte.
Un truc intéressant que j'aimerais creuser aussi avec toi, en ayant l'expérience, la Dignition, et en soi, c'est un process classique, même quand tu as des gens qui candidatent, à un moment donné... On m'a proposé plusieurs CV. Ce que j'ai trouvé difficile, c'est qu'on me demandait mon avis sur les CV. Et c'était complexe, en fait, pour moi, d'arriver à me dire oh, oui, non, je sais pas. Bon, d'autant plus avec mon biais qui est que, pour le coup, c'est beaucoup plus facile de ressentir la personne quand je lui parle. T'as des conseils de comment à regarder un CV de manière efficace, entre guillemets?
Ce que je recommande toujours, c'est de regarder les résultats. C'est-à-dire que sur un CV, ce qui est parlant, et d'ailleurs c'est ce que je recommande à nos candidats aussi, c'est de montrer les résultats. Et si les résultats ne peuvent pas être montrés en chiffré, les montrer en comparatif. C'est-à-dire, ben, si par exemple ta boîte elle faisait pas un CA incroyable, mais que tu étais le meilleur vendeur de ton équipe, ben, tu peux mettre ça. Je suis content parce que j'ai réussi à être le meilleur vendeur. Alors, attention, ça se percute pas avec tout à l'heure, c'est-à-dire que tu peux être le meilleur vendeur sans avoir assassiné tes collègues, tu vois. Et c'est très bien. Il faut montrer ça.
En plus, dans la vente, à la limite, c'est presque l'endroit où la compétition, c'est le
plus sain. Mais après, ça peut être des résultats d'autres choses. Ça peut être, j'ai réussi à aligner 50 personnes sur tel projet, j'ai réussi à, tu vois, mais montrer ce que tu as réussi. Et du coup, quand tu lis un CV, c'est ça que tu vas chercher. En quoi il a réussi à faire quelque chose? C'est pas le titre du poste. Le titre du poste, tu peux faire mettre n'importe quoi derrière. En revanche, si tu vois la mission et que tu vois le résultat, là, tu commences à te faire une idée. Et après, si tu fais appel à des gens comme nous, c'est aussi parce que parfois, tu veux qu'on t'aiguille. Et ça, c'est OK. En fait, nous, on a dans nos clients, on a des gens qui ont besoin de dire « Non, moi, ça, je veux, ça, je veux pas. » Et puis, on en a qui ont besoin de nous dire « En fait, à ce stade, j'en sais rien. Donc, par rapport à ce que je t'ai dit, qu'est-ce que tu me recommandes de rencontrer ?» Et nous, on est ravis de travailler comme ça. C'est beaucoup plus confortable. Ce que tu me dis, ça me fait penser que peut-être qu'il faudrait qu'on revoie notre manière de le présenter. C'est-à-dire que peut-être qu'il faudrait qu'on dise « Je te les présente, mais si tu veux mon avis, moi, je te dis qui rencontrer. » Pour pas que tu te sentes ne pas avoir fait ta part du job, de pas avoir choisi, tu vois.
Est-ce que c'est pertinent de, mis à part pour les postes de design où il y aurait presque une évidence à ma question, mais est-ce que c'est pertinent d'évaluer la... Parce que c'est fascinant les CV, la qualité du CV, la mise en page du CV, comment c'est structuré. T'as vraiment des CV qui sont ignobles.
Affreux. C'est affreux.
Est-ce que pour toi, voir un CV ignoble, c'est bon ou là, c'est une grosse alerte?
Bah, si c'est un créa, ouais.
Oui.
C'est... Mais après, c'est pas le sujet pour d'autres jobs, non. Et c'est pour ça que nous, on a un dossier en amont qu'on demande de compléter. C'est parce qu'il faut arriver à s'affranchir du packaging. On peut pas s'en affranchir totalement parce que c'est quand même le marché du travail. Puis c'est pas nous qui décidons. Tu vois, je vais pas décider à ta place qui tu vas recruter. Donc, si le pack est vraiment trop moche, ça marche pas, quoi. Quand le CV est vraiment pas à la hauteur du candidat, on leur dit de le revoir. Et puis, on a des ateliers pour accompagner les candidats aussi pour refaire ça. L'esthétique, c'est un problème, mais le principal, c'est pas de mettre d'informations inutiles dans un CV parce que du coup, on se demande ce que tu caches. Tu vois, si tu commences à mettre des jauges qui veulent rien dire sur maîtrise du pack office, c'est inutile et du coup, ça brouille pour le recruteur. Et en revanche, mettre ce qui toi t'a rendu fier dans ton CV, ça c'est important.
S'il y a quelqu'un là qui nous écoute, qui a envie de bosser avec vous, comment ça fonctionne?
Écoute, c'est assez simple. Sur notre site internet, il y a un formulaire dans lequel tu pré-remplis ce dont tu as besoin et il y a immédiatement quelqu'un qui va te rappeler pour te demander ce dont tu as vraiment besoin, etc.
Présente peut-être tu l'as un petit peu dit indirectement, votre approche.
Alors, nous, la manière dont on travaille, c'est que donc il va y avoir un premier appel pour qualifier d'abord si on a une collaboration fructueuse possible. Ça fait maintenant 7 ans qu'on travaille sur le marché des startups. Il y a des demandes, on ne sera pas les bonnes personnes. Et on pourra orienter d'ailleurs, on pourra dire, en fait, pour ça, ce n'est pas nous, c'est un tel. Parfois, les demandes sont tellement étonnantes qu'on ne sait pas très bien orienter. Mais normalement, on sait quand même aider. Ce premier call, il est destiné à ce que l'interlocuteur en face et nous, on se dise, ouais, on a envie de bosser ensemble et on pense qu'on peut faire des choses chouettes ensemble. Ensuite, du coup, on va partir sur une convention cadre qui dit, grosso modo, aujourd'hui, on est au succès, donc, sauf dans certains cas. Enfin, il y a certains cas où on demande une contribution pour le travail qui va être engagé. Mais sinon, on se met, dans la plupart des cas, au succès. Du coup, on peut commencer à bosser ensemble. Mais c'est pour ça que cette première étape de est-ce qu'on pense que ça peut marcher, elle est importante pour nous comme pour l'autre. On ne va pas perdre notre temps, ni l'un ni l'autre, pour rien, si ça ne peut pas marcher. Comme nous, on fait venir tous nos candidats dans notre base en amont. Quand on a un call avec l'entrepreneur, on peut lui faire une première présélection de candidats en 2 jours. Ce qui, là, est beaucoup plus rapide que n'importe quel chasseur. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on peut faire des allers-retours, on peut faire rencontrer des premiers candidats très vite et même peut-être modifier le brief s'il y a besoin. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'avant cette étape où on présente des candidats, il y a une étape où on prend le temps avec l'entrepreneur de vraiment aller au fond de de quoi tu as vraiment besoin. Et d'aller au fond de, du coup, c'est quoi la culture de ta boîte, c'est quoi les objectifs à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, par rapport à ton organigramme actuel, quel est vraiment le besoin que tu as? Parce que parfois, c'est très, très bien calibré en amont. Et puis parfois, pas du tout. Et on gagne un temps fou à prendre ce temps-là en amont pour se dire tout ça. Voilà.
Est-ce que tu aurais un dernier message que tu souhaiterais partager? Il y a beaucoup de choses déjà que tu as dit. Donc, qu'est-ce que tu aimerais dire à un entrepreneur ou une entrepreneuse, je ne sais pas si c'est comment on le formule exactement, qui est plus dans la difficulté en ce moment, a peur pour le futur de son entreprise? Tu aimerais lui dire quoi?
De se constituer de l'énergie au contact des gens avec qui on travaille pour leur en redonner au centuple. Je crois qu'on est toujours très récompensé de créer l'énergie du collectif et de se nourrir de l'énergie du collectif. Donc j'aurais envie de créer cette... Tu sais, tu sais jamais quelle est la poule et quel est l'œuf, mais malgré tout, c'est quand même à l'entrepreneur de mettre un peu de carburant au démarrage ou de faire effet de levier. Et je crois que j'aurais envie de recommander ça, d'aller chercher de l'énergie auprès du collectif.
Ça voudrait dire quoi? Partager ce que...
Alors ça peut être tout à fait. J'ai fait ça la semaine dernière. J'ai partagé ce que moi je traversais à toute mon équipe en leur disant que j'avais besoin de recréer un collectif, etc. aussi. Et je crois que ça fait beaucoup de bien à tout le monde.
Alors là, ça soulève une autre question qui est complexe. C'est la ligne, je trouve, entre ce que je vais partager et qui va créer du lien et me libérer. Et tu disais juste avant... le rôle du leader qui est quand même d'insuffler de l'énergie. Et aujourd'hui, ça paraît de plus en plus évident comment la psychologie avance, que l'extrême de « je dis rien, je présente qu'un visage », ça va toujours, c'est pas forcément la bonne voie pour créer le lien. Encore une fois, dégradé, ça m'intéresse juste. On finit avec ça, à la limite. Comment tu te positionnes entre être transparent sur ce que tu vis et en même temps, t'es là pour « allez, on y va, on va y arriver ». C'est quoi ta vision de ça?
Quand je sens que ça va pas, de la même manière que quand j'ai traversé des moments difficiles, j'ai tenu à être authentique pour pas que les gens surinterprètent. Quand je sens que pour moi c'est dur, il y a un travail, alors je sais pas si c'est la bonne façon de faire, mais en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire, il y a un travail que j'essaye de faire qui est d'aller rechercher de l'énergie pour aller très vite expliquer, c'est dur, mais voilà ma démarche et voilà ma trajectoire, donc suivez-moi dans cette trajectoire. Mais tu sais, il faut pas aller voir les gens quand t'es en train de baisser d'énergie. En revanche, C'est mon rôle de taper le fond de la piscine et de leur dire, bon, alors, je suis pas loin du fond, mais je suis en train de remonter, ça va aller bien, les gars, et on va tous repartir. Et je pense qu'en réalité, eux aussi, quand nous, on est un peu au fond du trou, eux aussi sont un peu au fond du trou. Et donc, voilà. En l'occurrence, j'avais demandé une 360, tu vois, à mes équipes. Donc, j'ai pris quelqu'un d'un peu neutre, qui est allé voir 17 personnes pour les interviewer en anonyme, pour savoir ce qu'ils pensaient, etc. Un retour hyper constructif et puis très nourrissant et très intéressant. On a mis en place un système où... À chaque fois qu'il y en a un qui est un peu comme ça, on a encore des méthodes de co-coaching.
Tu parles en interne, là, t'es déjà en interne.
Des méthodes de co-coaching entre nous pour repartir dans la dynamique inverse quoi, sur certains sujets.
C'est super inspirant, en tout cas, le nombre de choses que vous avez implémentées, le coaching qu'il y a dans la boîte, la formation, m'inspire.
C'est chouette, merci.
C'est la prochaine étape pour nous. Merci en tout cas, c'était vraiment cool pour moi. C'est ma petite leçon d'entrepreneuriat au passage. Et encore une fois, merci.
Merci à toi.